Bon midi tout le monde! Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase, midi 1 exactement. Je voudrais vous aviser immédiatement que je suis très en forme aujourd'hui malgré le mauvais temps. Ce qui fait en sorte que je vais sûrement faire un peu de sarcasme et de blagues.
Mais c'est bon. C'est une bonne nouvelle, ça.
Ben oui.
Oui, il faut juste avertir, parce que tu sais, des fois, tu fais du sarcasme, puis là, les gens comprennent pas que c'est du sarcasme, puis tu peux
c'est
être cancellé.
C'est vrai que le sarcasme, en 2026, ça a l'air d'être une notion bien compliquée.
C'est ça.
Vaut mieux le préciser.
C'est pour ça. Je suis en forme, certainement, parce que j'ai passé un super week-end. Hier, dans un minivan, j'ai transporté 6 ados garçons jusqu'à la Pocatière et je les ai ramenés pour leur... Flag football, 2 victoires de l'école. Les Sentiers, on termine au premier rang, les séries dans 2 semaines. Et, on dit que j'aimerais ça être un ado. Oh! Ils sont tellement beaux. C'est des amis, d'un. Ils se respectent. Écoutent de la musique, ils jasent de filles, font des niaiseries, s'accœurent sur leur performance au flag football.
Oh! Tu retournerais là.
Que des beaux ados.
Hey, Mathias, ça fait pas longtemps que t'étais ado.
Oui.
Tu retournerais-tu ado?
Hey, c'est une bonne. Puis j'ai eu la réflexion en plus en fin de semaine. Je suis monté à Victo avec mon chum de secondaire. On est allé jouer au golf. Tout super belle fin de semaine. Puis j'en parlais. Il y a peut-être 2 ans, tu m'aurais dit tu retournes-tu au secondaire. Puis je m'ennuyais un peu du secondaire, de ce temps-là, d'être un peu nono. Puis juste avoir du fun. Puis triper entre boys. Puis là, depuis que je suis comme embarqué pour de vrai dans la vie d'adulte, je travaille temps plein. Je commence de plus en plus à avoir mes affaires. J'ai envie de te dire non. C'est comme, c'est une époque où j'ai eu du fun, mais que c'est correct que ce soit fini aussi.
Moi, j'ai zéro nostalgie.
Ah ouais, aucune.
Mais c'est pour...
Parce qu'il y a quand même un peu de nostalgie, non? Zéro.
Honnêtement, je suis pas une personne nostalgique. Fait que je suis peut-être pas votre personne moyenne. Je sais pas si les gens à la maison, vous êtes nostalgiques.
418-971-102, est-ce que vous retourneriez à l'adolescence? Mathias, non. Antonine, zéro pinball. Moi, demain matin, tu me redonnes 15 ans.
Ah ouais.
Ah ouais, moi, je restarte ça demain matin.
L'école, premièrement, je suis pas une fan, moi, à base. Là, l'école, c'était pas mon fort nécessairement. Le manque de confiance en moi.
Ouais, je comprends.
Moi, ça, je veux dire, je repense à ça, je me dis, pauvre petite, j'avais comme aucunement confiance en moi. J'avais des amis, puis c'était le fun, là. J'ai des bons souvenirs de party, mon bal de finissant. T'sais, j'ai des trucs bien romancés dans ma tête, mais je le sais que c'était pas la majorité du temps, mettons.
Non, mais c'est vrai. Mais puis la majorité des adolescents ont pas confiance. Ça, on l'oublie parce qu'on n'est plus dans ce pot-là, mais c'était, la confiance n'est pas au plus haut niveau. Mais c'est vrai que, puis c'est vrai en politique, c'est vrai dans la vie, on a tendance à se rappeler des bons souvenirs, puis moins des mauvais souvenirs
mais
aussi.
Ça dépend de ton tempérament. Il y a des gens qui veulent le verre à moitié vide, puis d'autres à moitié plein. Gens qui sont très nostalgiques, comme Jean-François.
Ma
là.
Gang de chums!
lui, il est parti.
Il est parti, là.
Ma petite blonde, trop pas trop. D'un bord à 15 ans, je me saoulais à gueule.
Ouais, moi aussi, pas mal.
Ah, oh, wow! Puis quand on parle de confiance, je sais pas ce que j'avais, mais tabarouette, j'avais une baby face, j'avais rien pour rentrer
la
dans
la confiance
bord.
Infinie de l'homme blanc.
Puis quand je t'ai défoncé les portes, je passais à côté du doorman comme si j'en avais 38, puis il me laissait rentrer. Ah, oh, quelle époque!
C'est le bon vieux temps, ça,
c'est
Jeff.
Bon vieux temps. Ah, tu sortais dans quel bar?
Chez son père, beaucoup.
Ooh.
Bord de Chansonnier. Fait que tu vois, quand j'ai déjà été souverainiste, j'avais une petite tendance vers la souveraineté à ce moment-là. Un petit peu de Paul Pichet, rue d'un printemps, le kit. Un petit peu de Fiori Séguin votant d'ici.
Ah, ben ouais.
Ah, non, j'étais vraiment du Jean Leloup, du Daniel Bélanger. Non, j'adorais.
Musique franco. Là.
Ah, oui, mais j'ai toujours été un grand fan de musique franco. Tu sais, même encore aujourd'hui, je vais plus voir par année de shows franco que de shows anglo. Tout le temps. J'aime beaucoup maintenant la scène plus alternative, punk rock franco. C'est Red Japan qui me l'a fait découvrir. Puis, non, j'adore ça, aller voir des shows franco. Honnêtement, là, je suis... Ben, je l'ai dit, hein? Mon prochain vote va être sur l'identité québécoise.
Oui, c'est ça. Fait que faut par que la les... culture,
ben,
on va t'avoir.
C'est ça, faut que les bobines suivent
faut
les bottines.
Les bobines.
Ouais, les bobines, ça marchait pas, mon affaire. Claude André qui dit oui, mais en 1980... Hey, demain matin, tu me redonnes 10 ans. Quelqu'un non qui a mieux la vie adulte parce que malheureusement a vécu de l'intimidation là, au secondaire.
Oui, il y a ça là, qu'on n'a pas abordé. Ouais.
Parce qu'on parle bien gros des adolescents. Hey, c'est on est niaiseux, mais il y a une bonne partie du fait qu'on est niaiseux aussi qui fait en sorte que
l'expérience.
C'est
autres.
Ça, que pour plusieurs personnes. Puis je sais pas si. Parce que moi, c'est proche de moi, mais je m'en souviens au secondaire, beaucoup de personnes qui se faisaient écœurer. Puis c'est encore présent, là, on en parle, mais des personnes qui se font écœurer pour eux autres de secondaire ou d'adolescente, c'est pas nécessairement de la nostalgie. Moi,
ouais,
c'est
ça, pense,
exact.
Oui.
Voler au dépanneur. Hey, j'ai volé le dépanneur de mon beau-père actuel.
T'as volé au dépanneur?
Ah oui, au Sonorco. Nous autres, on allait chez Girard à 15 ans, on sortait de là bien chaud. On était 8-10 boys qui s'en allaient veiller. Et puis là, on disait « OK ». Il y en a deux qui rentrent. Toi, t'achètes ça. Pendant ce temps-là, les autres, on s'en va là,
on
cachait des affaires dans notre côte.
On n'avait pas une scène. D'argent.
Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ma blonde que j'ai actuellement, je l'ai volée pendant qu'elle travaillait au Sonorco à l'époque.
Ah oui,
elle
c'est bien romantique.
Elle travaillait au Sonorco, puis je l'ai volé. J'ai volé mon beau-père actuel.
Caroline, t'en as parlé avec?
Je leur ai dit aux deux. J'ai dit, hey, je vous ai volé.
Bon, là, pendant
puis
qu'on avoue
dans
des crimes,
famille quand même.
Moi, j'avais volé un vernis à ongles aux Jean Coutu. Mais je m'étais fait pogner.
OK, tu t'es fait pogner.
Je me suis fait pogner. Puis ils ont appelé ma mère.
Ouais.
Puis ma mère, elle les a engueulés. C'était vraiment bizarre.
Hein?
Elle dit, franchement, c'est du maudit niaisage, arrêtez de me déranger. Puis il m'est rien arrivé à cause de ça. Puis j'étais tellement surprise parce que ma mère était quand même sévère. Puis là, je sais pas, là, on dirait, je sais pas si c'est la manière dont le Jean Coutu a approché ma mère, mais ça avait pas fait. Mais bref, j'ai jamais revolé. Tu sais, j'aurais pu dire, ma mère m'a pas chicané, je vais revoler. Et j'avais tellement été stressée. Je sais pas, ça vaut pas. Le stress que j'ai vécu valait pas le vernis à ongles.
Hey, je te pose la question, justement, parce que ce matin, on en a parlé dans le pit stop. Qu'est-ce que tu fais que ton enfant, s'il était dans le fameux bar à Trois-Rivières qui était 600, dont 70 mineurs, puis là, qui se fait arrêter par la police, puis qui se retrouve à la centrale de police, OK? Denis Gravel puis Marceau ont dit « Je laisse poireauter là ». Moi, j'ai dit « Je m'en vais le chercher », puis j'ai dit « Il n'y en a pas de trouble ». T'es hot, t'es rentré dans un bar avant d'avoir 18 ans. Hey, moi, de 15 à 18, là, quand je rentrais dans un bar, là, crève que je me pétais. Là, je devenais surconfiant.
Bon, ça vient de là, probablement, ta confiance infinie. Premièrement, ça me rappelle vraiment des souvenirs d'adolescence aussi, parce que nous autres, on sortait à relève quand on n'avait pas le droit. Et la fin de semaine qu'il y a eu la méga descente puis que toutes mes amies se sont fait arrêter, mes parents m'avaient obligé à aller au chalet. Puis j'étais vraiment, tu sais, comme les pires parents du monde.
T'étais frustré, j'espère donc.
Puis là, ils m'ont sauvé d'une humiliation puis de problématiques d'arrestation policière dans une descente. Moi, je pense que pour répondre à ta question, j'irai les chercher. Mes gars, là, quand ils font des niaiseries, mais je ferais vraiment de grosses babounes. Puis mon chum dit que je peux. Il n'y a rien que je peux pas accomplir avec mon regard de feu, de mère fâchée.
Ouais.
Je dis pas un mot. Puis là, mes gars, ils se décomposent un petit peu, mais je suis là pareil. Parce que je veux qu'ils. En fait, tu veux être dans leur vie, tu veux être là pour eux autres. T'sais. Tu veux leur faire sentir que l'amour est inconditionnel quand même.
Moi, pour de vrai, là, avant de passer la parole à Mathias, ce serait quasiment une table d'armée, good job, man.
Non, peut-être pas à ce point-là, par exemple.
Ouais, c'est peut-être un peu exagéré,
moi,
ça.
Moi, je suis là pour toi, je te fais filer cheap, mais je suis là.
Moi, je le ferais pas filer cheap, il a réussi à rentrer.
Oui, mais là, tu le rapprends pas à respecter les règles un petit peu, mettons, dans la vie, ou...
Ah, les règles. Bon, mets-toi à l'orange.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Jeff. Peut-être pas au point de les féliciter puis une table dans les mains. Là. Mais j'écoutais
good job, man.
Non, mais j'écoutais Yann puis Denis parler à matin puis on les laisse au poste de police puis après ça, on a une discussion avec eux. Dans ma tête, c'est comme ils se souviennent pas comment ils étaient à 16 ans.
Ouais. Moi,
mais non, ils n'ont rien fait de grave. Ils ont juste rentré dans un bar.
Ben, d'un certain sens, je suis d'accord avec toi. Moi, je me souviens à 16 ans, puis je considérais pas que j'étais un adolescent difficile. Mais j'aurais été dans un bar, je me serais fait mis dehors, au bar, au poste de police, tout. J'aurais appelé mes parents, puis mon père m'aurait dit « Ben, je te laisse là ». J'aurais dit « Ben là, père, j'ai rien fait de mal, je prends pas de drogue, j'ai pas fait de criminel. J'étais dans un bar, là, common.
Oui. »
Le lendemain matin, quand il serait venu me chercher, j'aurais pas voulu discuter, mettons.
C'est ça, ça coupe le canal de communication.
Ben oui.
Faut pas tomber dans l'extrême. Par contre, tu sais, moi, je suis en désaccord quand même avec toi, Jeff, parce que y a comme un apprentissage à faire là-dedans. C'est comme, écoute, man, t'as voulu pas respecter les règles. tu sais, je vais être là pour toi. Mm-hmm. Mais par exemple, il y a des conséquences dans la vie, là.
Ouais. Ben, on y va tout avec l'éducation qu'on a eue. J'ai eu une superbe éducation de mes parents. C'est pour ça qu'à 15 ans, le vendredi soir, j'étais assis à côté de mon père chez Gérard. C'est hot, hein?
C'est correct. Mais ça dépend du genre d'enfant que tu as aussi en passant. Tu sais, il y a des enfants, là, ceux-là, il faut les tenir un petit peu plus serrés. Oui, oui. Parce que tu dis, un jour, c'est le beurre, après ça, ça va être autre chose.
Non, je suis très, très d'accord.
Mais quand tu as une bonne relation avec tes enfants, puis tu sais bien que c'est la pire affaire qu'ils vont faire. Tu sais, mettons, tu dis, je suis dans un bar, mais je prends pas de drogue, je fais pas de... Tu sais, c'est correct. Mais tu le files aussi, le tempérament de ton enfant.
Exactement. Bon, fait qu'il y a des gens ce matin qui se disaient, Édouard, écoute et prends des notes. Le matin, il n'écoute pas le midi des fois, par exemple.
Ben, il est supposé d'être à l'école.
Parce que là, Eliott a 18. Eliott a 18, fait que lui, c'est correct, c'est réglé. Il est rentré pour la première fois dans un bar à l'âge de 18 ans. Mais peut-être qu'Edou, ça va y tenter avant.
Mais tu sais... Puis le pire, c'est que j'ai envie de te dire, ça m'a quand même étonné, 70 mineurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de mineurs qu'avant qui ont tendance à aller d'un bar.
Ça a l'air qu'à Trois-Rivières, les mineurs vont encore veiller.
Ça a l'air. Parce que moi aussi, dans l'entourage de mon fils, c'est pas la grosse affaire, là, aller clubber. Là,
aller d'un bar, c'est moins populaire chez les jeunes tout court. Là. Moi, à mon âge, mes amis, on va plus ben d'un bar.
Il y a un texto qui est rentré. Jeff a raison, c'est le problème du bar, c'est pas la faute des mineurs qui sont dedans. Hey! Chez son père, j'allais veiller, ma prof d'anglais, ma prof de maths était là de secondaire 5.
C'est spécial. On fait-tu des nouvelles?
Très spécial. On fait des nouvelles parce qu'après ça, il faut parler politique. Hey, je me suis emballé sur le fait que j'aimerais ça devenir ado.
Il aimerait ça rentrer dans des bars en état mineur. Là,
ah oui, le thrill que ça venait.
C'est sûr.
Ok,
c'est un
bon,
défi.
On passe aux choses sérieuses.
L'invelle, excusez-moi, j'étais un petit adolescent aujourd'hui. Je l'ai dit par contre. À ma défense, je l'ai dit au départ. Je file tempête de neige. Mathias, c'est une nouvelle.
J'espère qu'il n'y aura pas de tempête de neige.
Ben, en tout cas, il va en avoir une tempête du côté de l'Alberta au cours des prochains mois. Alors qu'on se lance en campagne référendaire. Formulation de la question, je vous la rappelle, là, pour ce fameux référendum qui s'en vient sur la souveraineté, mais pas vraiment, là, en fait. Là. La question est la suivante. L'Alberta doit-elle rester une province du Canada ou le gouvernement de l'Alberta doit-il entamer la procédure juridique prévue par la Constitution canadienne afin de tenir un référendum provincial contraignant sur la question de savoir si l'Alberta doit ou non se séparer du Canada? Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, puis avec raison, en gros, ça demande si l'Alberta doit commencer ou non un vrai référendum sur leur souveraineté. Mark Carney a commenté ce référendum-là aujourd'hui en disant qu'il n'allait pas rester un spectateur. Il va certainement faire campagne pour l'unité canadienne, ça a été ses mots. A ajouté aussi qu'Ottawa a l'obligation d'évaluer si la loi sur la clarté référendaire s'applique dans ce cas-ci ou non. Gabriel Nadeau-Dubois qui nous a publié un rapport ce matin. Le but de ce rapport-là, c'est de répondre à la question suivante. Est-ce que la CAQ priorise ou non les circonscriptions dans lesquelles ils sont élus pour leurs investissements en matière d'infrastructure d'éducation? En gros, la réponse est oui. La CAQ investit davantage par élève dans les circonscriptions où qu'ils sont élus depuis qu'ils sont au pouvoir. 1 085 $ par élève dans les circonscriptions caquistes contre seulement 466 $ par élève pour celles péquistes et 235 $ pour celles solidaires. Et je termine en politique provinciale avec Christine Fréchette qui va annoncer aujourd'hui une abolition de la TVQ, notamment sur certains produits d'épicerie. Là, on parle de fruits, légumes, déjà coupés, beurre tendre, noix ou encore des muffins. Ça va être annoncé du côté de Sherbrooke en après-midi. Cette mesure-là, tout seul, va coûter 100 millions de dollars par année. Je vous rappelle, Christine Fréchette a une enveloppe de 250 millions pour faire des dépenses maintenant qu'elle est chef. Avec ses promesses, on est à 292 millions de dollars. On a déjà dépassé cette cagnotte-là de 250 millions. Radio-Canada, en fin de semaine, nous rappelait que 2 mai, mais nous apprenait que 2 mai dernier, Éric Girard avait écrit une lettre à la première ministre Fréchette dans laquelle il rappelait la somme de 250 millions en se disant inquiet du nombre d'annonces prévues au calendrier puis qu'il fallait respecter cette somme-là. Christine Fréchette l'a déjà dépensée. Mm-hmm. Aujourd'hui, Éric Girard à Radio-Canada a dit que finalement, on avait la marge de manœuvre nécessaire pour dépasser le montant de 250 millions. Donc, 3 semaines plus tard, on se contredit du côté du ministre Girard. La raison, ce serait qu'on ait plus de transferts fédéraux que prévu et un peu plus de revenus également.
Et avant d'entendre Éric Girard bégayer et Christine Fréchette dire « C'est moi la bosse, les auditeurs me ramènent à l'ordre. C'est l'heure de l'indice pour notre superbe concours de la fièvre des séries à Boulevard 101, c'est-à-dire gagner une paire de billets pour le match numéro 4 à mort. » Montréal, mercredi le 27 mai. On donne 3 indices par jour, c'est-à-dire à 7h55 dans le Pit Stop, dans le segment On en jase, qui est de midi à 12h30 dans l'émission, dans le segment Le Caucus devrait agir dans l'émission On en jase, et également à 16h dans Gravel dans le retour. Ce midi, l'indice, allez mettre sur le blvd.fm dans la section concours. Matheson.
Oh.
Pour Mike Matheson, le numéro 8 du Canadien de Montréal. Alors, M-A-T-H-E-S-O-N. Il ne veut pas dire que je ne prends pas soin de vous. Matheson. Le concours, je vous le rappelle, c'est une commandite de Chaloux. Ça, Chaloux, là, c'est le fun de la fin de semaine. Ouais, samedi, j'ai dit à la blonde, il me semble qu'il nous manque un peu d'IP à la maison. Hein? Elle m'a dit, pas chez Chaloux.
Avec une belle température de même dimanche.
Ben oui. T'es revenu avec quoi? On venait avec 3 grosses canettes qu'on n'avait jamais bu. Ah, qui était bonne. Tu sais, plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts, de la micro d'exception à la bière de soif. C'est à Beauport, Saint-Émile et Sainte-Catherine.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Ah, oh, j'adore. On vient de recevoir un texto. Ma nièce faisait partie des 70 mineurs à Trois-Rivières. Elle va avoir 18 ans à la mi-juin.
Oh, ben là.
Et je ne sais pas à quel point tu peux laisser ton enfant au poste parce qu'elle est repartie avec son chum qui est majeur et qui était avec elle vendredi soir. Il est étudiant de technique policière. C'est peut-être pour ça. C'est plus... C'est 300$ d'amende qu'on donne à la personne mineure qui est dans le bar.
Ben, ça, c'est une bonne punition. C'est comme parent de ne pas payer l'étiquette. Puis de dire, ma grande, mon grand, c'est toi qui peux payer 300$. Aïe, aïe, aïe.
Alors, merci pour cette information par texto. Antoinette, j'aime toujours ça quand on met un petit peu le bain et on refait l'histoire de ce qui s'est passé. Et là, en fin de semaine, on apprenait. Éric Girard a écrit un courriel à Christine Fréchette. Puis là, Christine Fréchette a reçu ça. Puis là, toi, tu me disais, Gérard, il fait toujours ça.
Ben oui.
On a un écœurant.
Ben, c'est un écœurant. C'est le ministre des Finances.
Ouais.
Le Trésor puis les Finances au gouvernement, là, t'es un peu plate avec le monde.
Non, non, en
effet. Si tu disais oui à tout le monde, qu'est-ce qui arriverait?
Ben, il arriverait des déficits encore plus majeurs
que ce qu'on a. Un milliard de milliards de dollars de déficit.
Et là, samedi, ben, on l'appelle-tu comme ça, congrès de la CAQ?
Conseil
général de la CAQ à Lévis. Et là, Éric Girard, ben, il a patiné devant les journalistes.
Le prix de l'essence est plus élevé et donc l'impact sur le coût de la vie des Québécois est très important. Bien, la TVQ, l'annonce n'est pas faite. Là. À date, ce qui est annoncé est à l'intérieur du 250 millions. Effectivement, il y a d'autres gestes qui sont considérés.
On l'a déjà vu plus à l'aise, mais Christine Fréchette a rappelé devant les journalistes que c'était elle, la bosse.
À titre de ministre des Finances. Il fait son travail. C'est important qu'il le fasse. Et je le remercie d'ailleurs pour le faire parce qu'il se fait, il est le gardien des finances publiques. Maintenant, moi aussi, j'ai un regard qui est à portée plus large encore.
Et aujourd'hui, il a rajouté ceci.
Bien, la situation a évolué au sens où on a eu davantage de transferts du fédéral. Donc ça nous a donné une certaine marge de manœuvre. Puis voyant que la situation ne s'améliorait pas pour le portefeuille des Québécois, bien, on a décidé de donner un coup de main additionnel.
Est-ce que vous avez peur qu'on vous reproche de dépenser autant que François Legault à ce rythme-là?
Parce que la situation le requiert. Donc pour moi, c'est d'être en phase avec les besoins des Québécois, les annonces d'aujourd'hui.
Alors voilà, c'est elle la bosse, c'est elle qui décide, c'est tout à fait normal, c'est la première ministre. Puis Éric Girard a bien beau dire, fais attention, si elle décide que dans le contexte économique, il y a des choix à faire, elle va les faire.
Exactement, puis c'est dans l'ordre des choses. La nouvelle, c'est beaucoup plus qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a envoyé ça à Radio-Canada. Moi, c'est plus ça qui m'a accroché parce que M. Girard, il fait tout le temps ça. Là. Il en a envoyé des centaines, des courriels comme ceux-là. Puis semble-t-il que celui-là était plutôt doux à compagnie de certaines autres versions que M. Legault
a reçues. Je suis content de l'apprendre parce que moi, ma première réaction, qui ne sait pas qu'Éric Girard a l'habitude d'envoyer ça, c'est de dire, gamin, le misogyne, toi. Il s'en permet parce que Christine Fréchette, c'est une femme à la tête. Il s'en est jamais permis que François Legault, puis il a fait des déficits records. Tu sais, quand on est à l'extérieur, là, le premier regard que moi, ça m'a apporté, c'est ça, c'est de dire, Galé donc, il a jamais challengé Legault, mais là, il se permet avec Fréchette, puis c'est lui qui a fait des déficits records.
Exact, mais tu sais, la réalité, c'est qu'il l'a challengé, Legault. Puis ouais. M. Girard, il doit porter la responsabilité des déficits, il peut pas s'en dégager. Mais c'est sûr qu'il s'est battu contre plusieurs dépenses du gouvernement. Là, quand on regarde en coulisses, je crois qu'il aurait préféré que la CAQ soit moins dépensière. Il a décidé de rester, il a décidé de présenter ses budgets, donc il doit partager solidairement les déficits de M. Legault. Maintenant, c'est normal que Éric Girard envoie des petits messages au cabinet de Mme Fréchette pour dire là, attention, là, on avait budgété des choses. L'autre élément, c'est que les budgets, c'est pas une science exacte. Parce qu'effectivement, on fait des prévisions de revenus, donc les taxes qui vont rentrer, les transferts fédéraux, ces choses-là. Et on fait des prévisions de dépenses avec les informations qu'on a. À un moment donné, si l'inflation monte puis que les dépenses de certaines choses, ça se peut que ce soit pas exactement ça. Donc, quand il dit on a la marge de manœuvre pour ça, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, politiquement, Mme Fréchette doit faire attention. Parce qu'un des avantages qu'elle a en ce moment, c'est d'avoir réussi à marquer une fin de chapitre par rapport à l'époque Legault. Et d'apparaître comme étant vraiment dans une nouvelle ère.
C'est pour ça que j'ai laissé la question dans l'extrait, parce que c'est là que je trouvais intéressant, où on vient déjà comparer Mme Fréchette à François Legault, ce qu'elle veut pas du tout.
C'est ça. C'est ce qu'on veut éviter si on est Christine Fréchette. Donc, il y a comme un petit avertissement ici qu'elle doit écouter, à mon avis, parce qu'elle a réussi à aller chercher 9 points supplémentaires dans les sondages. Mm-hmm. C'est bien. C'est un exploit. C'est notamment parce qu'elle a réussi à montrer l'image d'un nouveau gouvernement par rapport à l'ère Legault. Mais là, c'est sûr qu'on se dit, bon, ben on est bien content pour toi, madame, mais c'est notre argent, là.
Puis, je trouve ça intéressant que tu parles du fait que la comparaison avec François Legault va revenir, parce que ça commence déjà à débouler dans les médias. C'est sorti il y a de ça une vingtaine de minutes dans le Journal de Québec. C'est l'économiste en chef du mouvement Desjardins qui a justement critiqué l'élimination de la TVQ en disant que Christine Fréchette répète la même erreur que François Legault avait fait en 2022 avec le crédit d'impôt aux Québécois.
Le fameux
chèque. Donc là, on commence déjà à créer des liens avec ce que Legault faisait à l'époque électorale, puis ce que Christine Fréchette fait en ce moment.
Ou Justin Trudeau aussi, on pourrait faire des liens. Là, quand avait détaxé les dindes puis les sapins, là, ça sentait le désespoir pas mal, là, cette mesure-là, quelques semaines avant de quitter son poste. Donc, elle doit faire attention, puis rappelons-le, couper la TVQ, c'est sûr, c'est le fun. Là. Les gens sont comme, ben oui, c'est une bonne idée de m'enlever des taxes. Mais on parle de 50 $ en moyenne par année, puis ça prive le gouvernement de 100 millions dans le budget. Fait que, tu sais, je veux bien, là, mais il faut faire attention. Faut faire attention de ne pas se faire acheter avec notre propre argent.
Mais tu as entièrement raison. Puis il y a plusieurs auditeurs qui mentionnent, en plus, elle n'est pas une première ministre qui a été élue par le peuple, seulement élue par la CAQ. Tu vois-tu là une différence, toi?
Non, parce que notre système politique,
elle est
légitime. Elle peut le faire. Par contre, c'est légitime aussi qu'on soulève ces problématiques-là. Donc aujourd'hui, il va y avoir les annonces officielles. On parle de la TVQ qui sera retirée de certains produits, baisse des coûts d'immatriculation. Il y aurait aussi une annonce pour les personnes plus vulnérables dont on n'a pas encore la teneur. Ça n'a pas coulé dans les médias. On verra à 14 heures de quoi il s'agit. Mais ça fait pas mal de choses parce que là, il faut ajouter aussi à ça qu'il y a une baisse sur la taxe d'essence. Il y a eu la taxe de bienvenue rétroactive. Moi, je ne sais pas comment ça donne plus accès à la propriété de rembourser des gens qui ont acheté une maison il y a 6 mois.
Moi non plus.
Je suis bien content pour vous si ça vous touche, là.
Mais en effet.
Mais c'est un anane, là, ça, là.
Oui, puis je veux dire, dans l'immobilier, on a un problème qu'on n'a pas assez d'offres.
C'est ça, ça n'a pas rapport.
Ça fait juste augmenter la demande. Donc, ça règle de rien.
Il y avait le petit couple, là, quand Christine Fréchette faisait son discours d'ouverture qui était dans les tribunes, puis il disait, je me rappelais pas comment il s'appelait, là, Léa et Jean-François, ont acheté une maison en janvier. Bien, je suis vraiment contente pour vous, Léa et Jean-François. Mais ça met pas plus de maisons sur le marché.
Puis quand vous l'avez acheté, ben vous aviez calculé, comme j'ai fait votre taxe de bienvenue. Alors, voilà. Hey, avant de parler justement du domaine de l'habitation avec les maisons préfabriquées, je veux quand même te parler de mon globe-trotteur préféré.
Oui!
C'est-à-dire Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec. On l'écoute le 31 juillet 2022.
On n'est pas là pour brouiller les pistes nulle part. Là, on est là pour gagner. Moi, je suis venu dans Chauveau parce que c'est une circonscription qui me ressemble. C'est une circonscription aussi qui a un profil plus jeune. C'est des gens, c'est souvent beaucoup de jeunes familles aussi qui sont ici.
L'été dernier, Arthabasca.
Avoir un chef dans une circonscription, ça vient avec des privilèges. À partir d'aujourd'hui, vous allez faire parler de vous.
Ah, OK. Et là, on va être à Bellechasse. OK, attends une minute. Chauveau, ça le ressemblait.
Ouais, Québec.
Arthabasca, là, si moi je suis chef, Victor. Là, vous allez voir, ça va marcher. Puis là, on s'en va à Bellechasse. Ah, Bellechasse. Québec, 125. Ah! 39 % PCU. Ah!
Mais c'est un hasard. Là. C'est parce que
c'est
la circonscription lui
ressemble. Non, mais tu sais, honnêtement, là, si t'es chef de parti, t'es censé être assez bon pour te faire élire en quelque part où tu vis.
Je comprends ton point. En même temps, M. Duhaime a raté deux fois sa rentrée à l'Assemblée nationale. Et lui, là, il s'en fout un peu d'avoir l'air un peu fou puis d'être parachuté. Là, il veut rentrer.
Je sais.
Je le comprends. Il nous l'avait dit de manière très transparente il y a quelques semaines, là, parce qu'on spéculait un peu sur où est-ce qu'elle allait se présenter. Puis le PCQ m'avait répondu, c'est pas compliqué, là. On va regarder c'est quoi la meilleure circonscription. Mm-hmm. Puis il va aller se présenter là. Puis... on peut dire qu'il est parachuté ou quoi que ce soit, là, puis ça, les critiques vont... Mais je pense que les avantages dépassent de loin les inconvénients pour lui.
Ouais, mais ça fait partie de boboche, là.
C'est un parti de boboche, puis je le dis même pas méchamment.
C'est vrai, t'as raison, finalement.
OK, c'est un parti qui n'a pas de député, que c'est un one-man show à date, on est d'accord avec ça.
Hey, pas de député à ta minute, tu allais chercher Maïté.
Ah ouais,
t'es Maïté qui a cogné à la porte de QS. Bonjour, est-ce que je pourrais entrer chez vous? Là, ils ont dit non.
Ben, je pense que ça contribue aux broches à foin, ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mettons-le dans le même panier.
Puis celle qui veut se battre pour des régions aussi qu'on parachute à Québec ou aussi.
Oui, à la Pelletrie.
Mais même si c'est broche à foin, M. Duhaime a réussi son exploit, c'est-à-dire continuer à exister après la pandémie sans député à l'Assemblée nationale.
En effet.
Et là, c'est pas vrai. La prochaine étape pour lui. C'est ça. Tu sais, tantôt, on parlait de désespoir un peu de nous acheter avec des baisses de taxes de la part de Fréchette. Elle s'en fout pour l'instant parce que sa priorité, c'est de monter assez dans les sondages pour recruter des candidats.
T'as raison.
Duhaime, sa priorité, c'est de rentrer à l'Assemblée nationale en octobre prochain. Donc, il concentre ses énergies là-dessus puis il se dit, je justifierai le reste plus tard. Tant pis pour ça. On verra plus tard. Moi honnêtement... Tu sais, ça serait belle fun qu'il se représente dans une circonscription. Je vais me représenter dans Arthabasca. Tu sais, je leur avais dit que j'allais... Non! Tu sais, je veux dire, c'est pas une bonne idée. Là. Dans la vie, là, en politique, le but, c'est de gagner aussi. Des fois, on oublie, on dirait.
C'est clair. Il n'a même pas réussi à battre Sylvain Lévesque dans Chauveau.
Bien, en 2022, là, la CAQ était projetée. Ils ont gagné 90 députés. Tu sais, je veux dire, on oublie qu'à ce moment-là, je veux dire, la CAQ, c'était sur l'autoroute de la facilité. Là.
En effet, t'as entièrement raison. Hey, deux éléments très intéressants dans le domaine de la construction. Le premier, je veux t'en parler parce qu'on a passé outre il y a une couple de semaines, c'est les maisons préfabriquées, l'annonce de Samuel Poulain. Et on écoute à cet effet Jean-Philippe Mercier, maire de Saint-Gédéon-de-Beauce.
On le voit là, le plus que ça pourrait amener. Là. Des grosses maisons, c'est plus abordable. Mais ça aiderait nos épiceries, ça aiderait nos dépanneurs, nos commerces, nos industries qui peinent à trouver des gens là, pour travailler.
Il n'y aurait rien que les fous qui ne changent pas d'idée. Moi, au début, j'ai dit, okay, des maisons préfables. On est vraiment rendu là. On est vraiment rendu là au Québec. Puis, puis là, tout à coup, je me suis rappelé d'avoir visité le quartier à Scott en Beauce, des mini-maisons. Puis j'ai dit, c'est vrai, c'est non, mais là, ce quartier-là, crime toutes mes petites mini-maisons, le monde habite là-dedans, leurs petits lapins de terre, tout ça. Puis là, j'écoute justement le maire de Saint-Gédéon-de-Beauce, le maire de la Guadeloupe, hein, puis plein d'autres maires dans la MRC de Beauce, puis également de Chaudière-Appalaches. Puis je me dis, ouais, finalement, ils disent, on manque d'employés pour nos industries, le dépanneur roule
la
plus,
l'épicerie roule plus. La construction, c'est bloqué.
C'est ça. C'est une bonne idée, ça.
Bon, là, je suis vraiment excitée. Tu sais, le genre de sujet que personne s'intéresse à ça pendant des années, puis que, tu sais, toi, t'es comme, moi, ça, je trouve ça cool. Puis à un moment donné, ça devient cool. J'ai une petite fierté. Donc, le préfab, quand Samuel Poulain, ministre des Affaires municipales, a fait sa sortie sur « on pourrait essayer de faire des quartiers avec des maisons mobiles », premièrement, le mot « maison mobile » est chargé. Parce que la moyenne des sources va s'imaginer une maison mobile, premièrement, égale pauvreté.
Ouais, puis une roulotte,
park. Ça fait pas ambitieux.
Mais là, les maisons préfables, c'est pas des roulottes.
Hey, les maisons préfables.
Sont belles en
même
tabarouette.
Les mini maisons préfables. Moi, pour vrai, pas avoir deux enfants, moi, je vivrais très bien là-dedans, passant. Là. Puis, il y a eu plusieurs projets pilotes dans les dernières années. Genre, je pense à un, notamment, en Gaspésie. On avait recruté du côté du CIUS de la Gaspésie des infirmières, puis il n'y avait pas de place pour les loger. Donc, on essaie d'attirer la main-d'œuvre, pas de logement pour les infirmières. Bien, ils ont fait un petit quartier de maisons préfab, des mini-maisons préfab. Et je trouve que c'est innovant. OK? Il faut trouver d'autres idées. Puis quand Samuel Poulin parlait de faire des quartiers de maisons mobiles, des petites maisons préfab, j'haïs ça que le monde grimpe d'un rideau tout de suite. Ah, oh, c'est bien, puis on n'a pas d'ambition, puis on veut des grosses maisons. Puis
ouais.
Hey, deux secondes. OK? Le mieux est l'ennemi du mal. Non, c'est pas ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, des fois, là, peut-être que c'est pas toi ton rêve d'avoir une petite maison en préfab. Mais il y a des gens en ce moment qui ont de la misère à trouver un 2,5 en bas de 2 000 $.
Ben, c'est ça que j'allais dire, mais ça peut commencer par là. Puis tu sais, je fais juste donner une anecdote personnelle. Quand j'ai vendu mon jumelé, parce que j'étais plus capable de le payer toute seule.
Ouais.
Ben, je me suis en allé dans un 4,5 de transition, t'sais, en me disant « en attendant ». Puis là, ben, ça a bien donné, j'ai rencontré ma blonde, tout le kit, puis on s'est acheté une maison. Mais c'est un peu ça aussi avec le préfab. Ça peut être « hey, en attendant, au moins, je vais avoir ça avec mon petit lapin de table, ma famille
ben ». Oui.
Puis ça peut devenir le permanent aussi.
Ça peut être transitionnel. Ça peut aussi être pour des gens qui sont intéressés à réduire la superficie de leur maison. Il y en a qui n'aiment pas ça, entretenir une maison en passant, c'est bien
t'as
correct.
T'as tellement raison.
Puis l'autre affaire avec le préfab et le mobile, c'est que c'est agile. Tu peux déplacer plus facilement une maison mobile, entre guillemets, préfab, qu'une maison avec des grosses fondations et tout ça. Et ce qui m'amène à vous parler de l'institutionnel. Donc, quand on parle de construction institutionnelle, on parle d'hôpitaux, d'écoles, de CPE et autres bâtiments gouvernementaux. Et il y a certaines juridictions dans le monde où on fait une plus grande place au modulaire. Tu sais, quand on parle d'école modulaire, premièrement, les médias ont tendance à appeler ça comment? Des roulottes aussi.
Ouais.
Les enfants vont être dans des roulottes. On met toujours ça de négatif.
T'as raison.
Vous irez voir. Sur Internet, le googler nouvelles écoles
dans
des modulaires.
Ah non, les classes modulaires sont écœurantes. Ils ont même l'air climatique.
Ben, c'est bien plus hot, c'est plus hot que nos vieilles écoles.
Les
là.
Profs me disent, parce que j'en connais beaucoup, « Hey, écoute, l'été, je veux toujours travailler dans le modulaire, ils sont climatisés. »
C'est lumineux,
ben
c'est neuf. Puis sais-tu qu'est-ce qui est génial avec ça?
Il y en a qui travaillent dans des locaux qui n'ont même pas de fenêtre.
Mais non, c'est ça, ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, de nos jours, il fait plus chaud à partir du mois de mai, il fait plus chaud jusqu'au mois d'octobre.
Exactement.
Donc, mais pas rien que ça, là. Ça, là, quand il y a eu la pandémie, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont quitté l'île de Montréal. De plus en plus, les gens vont dans les Laurentides, à la Naudière, avec le télétravail, Rive-Sud de Montréal également. Et il y a des mouvements démographiques, des fois, comme ça, qui font qu'il y a des écoles qui deviennent moins utilisées dans certaines régions, certains secteurs, et qu'il y a des autres écoles qui vont être surpopulées dans d'autres secteurs. Avec du modulaire, tu comprends, tu n'as pas besoin de dire « Hey, il faut qu'on construise 52 écoles dans Laurentides l'année prochaine à des coûts exorbitants, comme vous savez, les coûts de la construction. » Puis là, je vais vous parler d'un autre problème qui s'en vient avec le nouveau coût de la construction. Mais avec des modulaires, tu peux dire « OK, on va monter des modulaires davantage dans certains secteurs. » Puis si dans 10 ans, là, c'est un autre secteur, on démonte tout ça, puis on envoie ça dans l'autre région. Je caricature. Avec aussi, de nos jours, avec les changements climatiques, il y a des problèmes, des fois, d'inondation dans certaines régions.
Là, tu l'as pas avec ça.
Bien, de pouvoir monter, démonter, déplacer des choses. Bref, on devrait faire une plus grande place à ça, puis arrêter à chaque fois de voir ça comme un échec de société. Ah, oh, des enfants dans une roulotte. Un échec collectif.
Mais c'est qu'avant, c'était pas chic, là. Tu sais, c'était pas...
Il y a eu les vraies roulottes de chambre. Il n'y a pas de toilette, ça marche pas.
C'est que là, je viens d'aller voir des photos parce que j'en ai eu des cours dans des modulaires qui n'étaient pas aussi beaux que ça, maintenant.
Ça s'est amélioré.
Mais là, non, c'est ça. C'est des belles bâtisses avec des fenêtres, avec une aire climatisée. C'est sûr que là, on parle de quoi qu'il y a bien de l'allure pour avoir des cours.
Tu sais, mon message, dans le fond, là, c'est sortons de nos préjugés. Puis, quand quelqu'un propose quelque chose d'original, au lieu de partir en peur puis de lancer des tomates, est-ce qu'on peut faire preuve d'un peu d'ouverture d'esprit?
J'suis très d'accord.
Bon, là, en parlant de...
Mais là, ouais, c'est ça, là, oui. J'y arrivais.
Vas-y.
Le bâtiment ici, il est 5 étages. S'il y a un tremblement de terre, il y a un gros risque d'effondrement.
Ouais.
Fait qu'il va falloir faire en sorte que la structure soit améliorée. Attends, je vais regarder ça, là. À l'œil nu, 70%. 70% faut améliorer cette structure-là parce que dans les dernières années au Québec, il y a énormément de buildings comme ça de 5 étages qui se sont effondrés lorsqu'il y a eu un tremblement de terre.
De 7 et plus sur l'échelle de Richter.
Bon, le dernier tremblement de terre de 7 et plus sur l'échelle de Richter, il remonte aux années 1600. Mais
ça peut arriver. Hein,
ben là, avec les changements climatiques,
Probablement.
Ouais, mais tu sais, j'essaye de mettre plein d'affaires. Là,
oui, d'ailleurs, c'est l'anniversaire du documentaire de Al Gore sur les changements climatiques, où est-ce qu'on serait supposé d'être tout en train de brûler dans des volcans en ce moment.
Puis des séismes n'ont pas nécessairement de lien, là, si je me trompe pas. Là, c'est les plaques tectoniques qui bougent.
Ça peut arriver. OK, bon. Après ça, à ta minute... Moi, j'ai déjà été dans un conseil d'administration de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées.
Ouais.
Puis je me souviens, ce qu'on exigeait des organismes, c'est toutes tes portes doivent être accessibles.
Ouais.
Toutes tes toilettes doivent être accessibles.
Il faut que deux chaises roulantes puissent passer
toutes
dans
tes
un corridor.
Tes corridors doivent être de cette largeur-là. Puis là, les organismes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient à bâtir sa terre puis ils le recommençaient parce qu'ils disaient, au nom de l'accessibilité.
En plus, pour vrai, je trouve ça super important, l'accessibilité.
Ben, moi aussi, je trouve ça super important. Mettons, c'est un building de 18 étages. Là. Moi, là, si j'étais le représentant de l'Association régionale des personnes loisirs handicapées, je dirais, parfait, assure-toi que ta porte principale soit accessible. Assure-toi que ton ascenseur principal ait telle largeur. Hey, assure-toi non, là, sur 18 étages, d'en construire 2-3, là, que les gens à mobilité réduite, ils vont avoir accès.
Ouais.
Que la salle de bain va être
Jeff,
un peu plus grande.
Il y a des reportages à chaque année où est-ce qu'on passe notre journée dans la peau d'une personne en chaise roulante puis on le sait qu'on doit faire mieux.
Oui.
Le problème, là... Puis là, tout ce que tu... Là, on a l'avertissement de sarcasme en passant.
C'est ça, là. Okay. C'est ça, bon. Vous avez compris, j'espère.
Il y a un nouveau code de la construction qui va entrer en vigueur l'automne prochain.
Ouais.
Et la presse a fait un super travail d'interroger beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la construction, qu'on parle de logements étudiants, logements sociaux, logements commerciaux, etc., des gens qui font des projets. C'est l'unanimité que ça va beaucoup trop loin, les nouvelles normes dans le code de la construction, et que ça risque de ralentir la construction. J'aimerais vous rappeler qu'on a une crise du logement en ce moment.
Bien, c'est ça.
Et des infrastructures qui tombent partout. Donc, est-ce qu'on veut vraiment ralentir le rythme? Mais tout ce que tu as nommé, tu sais, par exemple, bon, les normes sismiques, c'est les affaires pour les tremblements de terre, ça, c'est clairement exagéré. La première affaire qui prendrait le bord, beaucoup plus que l'accessibilité pour les personnes handicapées.
Oui, ça, je serais d'accord avec toi.
Après ça, on va exiger des infrastructures pour les véhicules électriques. Donc, tu construis un... Puis c'est surtout pour les nouveaux bâtiments puis les rénovations.
Mais ça, c'est correct. T'es honnêtement, j'en vois de plus en plus des véhicules électriques sur la route. Là.
Mais le problème, c'est qu'à force de vouloir être parfait, on risque de ne pas avoir de projet.
En plein ça.
T'sais, à un moment donné, on dit ah, mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir des bornes de recharge. Oui, mais s'il n'y a aucun nouveau logement qui sera construit, il n'y en aura pas de nouvelles bornes de recharge.
Non, puis en même temps, il y a plein d'entrepreneurs qui sortent pour dire hey, à ce prix-là, là, oubliez ça. Là.
Ben,
si
ça.
Je peux pas le construire, d'un, parce que je n'ai pas la capacité financière.
Puis après ça, on dit les entreprises, ils nous surchargent.
C'est ça. Puis de deux, si je le construis, c'est parce que ça n'aura pas de sens pour le locataire qui va le prendre.
Donc, là, il y a beaucoup d'inquiétudes qui est rapportée. Le Parti libéral a fait une proposition que je trouve vraiment très bonne. Là. C'est de revoir tout ça et d'essayer d'alléger le plus possible. Parce que je pense que chaque bonne intention, individuellement, on se dit « Ah ben oui, ah ben oui ». Puis on veut toujours être prudent, tu sais. Moi, je me rappelle, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, là, tout à coup, on veut tout changer les normes. Tu sais, vous vous rappelez, il y avait eu l'incendie dans la résidence pour personnes âgées sur l'île Verte.
Oui.
C'était épouvantable. Là, tout à coup, il a fallu mettre des détecteurs puis des gicleurs un peu partout. Tu sais, on est beaucoup comme ça.
Là, ça fait en sorte qu'on construit des maisons des aînés à plus d'1 million la porte.
Ben, c'est un peu ça. Puis il faut accepter à un moment donné que... C'est sûr que si on attend de notre gouvernement qu'il ait tout prévu les catastrophes possibles, ben, ça va donner des choses inapplicables qui vont ralentir la construction et qui vont avoir des effets probablement encore plus graves. Donc, on ne sera pas parfait. Tu sais, les édifices puis les tremblements de terre, là, tu sais, c'est un bon exemple. Tu sais, il n'y en a pas souvent, des tremblements de terre au Québec.
J'ai la carte ici. À Québec, là, dans l'histoire de la ville de Québec, c'est 2 tremblements de terre de magnitude 5.
En 1989, je m'en rappelle de celui-là.
Fait qu'à un moment donné, on n'est pas une zone sismique de Québec en général. Puis de toute façon, il y a des zones qui le sont un peu plus que d'autres. Fait qu'à la limite, ajuste tes réglementations.
Dans Charlevoix notamment. Est-ce qu'on veut ralentir la construction dans un moment aussi crucial de notre économie puis de la crise du logement pour ça?
Non.
Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut remettre le projet dans la machine à réflexion et le regarder du point de vue avec d'autres impératifs, notamment que, en passant, le secteur de la construction, c'est névralgique pour la vigueur économique. Donc là, faire face à nos soubresauts économiques avec les tarifs de Donald Trump, avec tout ce qui se passe, ça passe notamment par la construction.
En effet.
Retournez donc à tabac dessin.
Excellent point. On termine avec Édouard Lamarre, 20 ans, et Émile Thibault, 15 ans, des jeunes souverainistes qui étaient au rassemblement du Oui Québec. Tu as fait une animation là-bas, toi, Antoine?
Oui, j'étais là, c'était le fun.
T'étais là, on les écoute.
Mes amis qui sont pas québécois, nés ici, sont tout autant souverainistes. Fait que je pense pas que on devrait avoir des vues conservatrices par rapport aux souverainistes.
Je vois pas pourquoi on pourrait pas inclure d'autres nations avec nous dans ce mouvement.
Moi, Émile Thibault, 15 ans, je voudrais que ce soit mon fils.
Ils sont cute, hein?
Ben, pour de vrai, oui. T'es moi, là, à 15 ans, tu te retrouves dans un rassemblement politique comme ça. Tu t'intéresses à la politique, ouais. Tu t'intéresses à la nation québécoise. Mon étoile du jour revient, Émile Thibault. Mais là, dis-moi, là, on s'est chicané encore, là?
En fait, c'est qu'on s'est pas tant chicané, mais c'est ça
qui
ressort.
Mais là, pourquoi les médias disent que ça chicane,
bon,
là?
Alors,
qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le PQ était pas ouvert aux immigrants, là?
Non, c'est ça qu'on a dit? Non, ils n'ont pas dit ça comme ça. OK. On fait un petit récapitulatif. Vas-y. Premièrement, les Oui Québec avaient un événement en fin de semaine. Ouais. Ils ont profité de l'événement pour dévoiler un rapport. Ils ont rencontré un paquet de groupes, des dizaines de groupes de la société civile. Quand on dit société civile, c'est en dehors du gouvernement. Mm-hmm. Donc, secteur économique, secteur communautaire, etc. Pour leur demander un peu toutes sortes de questions sur le mouvement souverainiste, sur le projet de pays, qu'est-ce qui les inquiète, qu'est-ce qui les interpelle, etc. C'est un rapport de 35 pages qui est disponible en ligne. Vous tapez « Oui, Québec, rapport souveraineté ». Vous allez le trouver direct et vous allez constater qu'il y a juste un petit bout qui parle de fermeture. Parce que c'est ça qui est sorti de l'article de la presse, notamment, que le mouvement souverainiste était trop fermé, qu'il fallait davantage d'inclusion. Écoutez, là, moi, ça vous jette ça en bas de votre chaise. Ça fait des années qu'on le sait, qu'il y a un enjeu d'inclusion par rapport au projet de souveraineté. On a tellement de misère à convaincre les immigrants.
En 95, après le, après le vote,
Jacques nous a pas aidé bien, ben,
Jacques Parizeau, l'ex-premier ministre, nous l'a dit.
Puis, moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est possible que des personnes issues de la diversité et de l'immigration embarquent dans le projet de pays. Mais c'est normal que l'adhésion soit un peu moins élevée pour toutes sortes de raisons. Toi, tu as immigré au Canada, premièrement. Souvent, c'est le Canada qui t'a... C'est ça que tu as en tête quand tu viens. Deuxièmement, des fois, tu arrives de pays dans lesquels il y a des conflits, il y a de la corruption, toutes sortes de choses au niveau politique. Et là, tu arrives dans un pays avec une certaine stabilité, une démocratie. Mm-hmm. Ils sentent des fois moins interpellé par prendre un risque avec Ensuite, il y a aussi la connaissance de l'histoire. Tu sais, je veux dire, plus les gens connaissent leur histoire, plus ils sont souverainistes, c'est comme ça. Bien, c'est sûr que les personnes qui viennent d'arriver ici n'ont pas la même connaissance, à moins qu'ils aient étudié ça dans leur université, dans leur pays. Là, tu sais, c'est rare.
Oui, puis encore là, ben, si jamais c'est Mark Carney, le prof d'histoire, ben là, ça change. Parce qu'on a printé, c'est plein d'avant.
Ben, c'est ça. Moi, je suis immigrante, j'arrive, j'entends le premier ministre dire que tout le monde s'entend bien comme ça. Je me dis, on n'a pas besoin de faire la souveraineté.
Ben non. Donc,
mais c'est un enjeu qui est là depuis longtemps.
Clairement.
Et il n'y a rien de nouveau là-dedans, les amis. Là. OK? Il y a un enjeu, c'est un défi. Les partis font leur possible et il y a des approches différentes. QS n'arrête pas de taper sur ce clou-là, puis le PQ, lui, n'arrête pas de se braquer sur la question. et c'est ainsi. Puis là, on ressent une espèce de regain chez les jeunes, OK? Qui, au niveau des chiffres, n'est pas si extraordinaire, mais honnêtement, je vous dis, là, il y a 10 ans, on parlait de souveraineté. Là, les jeunes, ils nous regardaient. Il y a comme une ouverture, une curiosité.
Il y a un intérêt, parce que là, tu sais, j'ai fait justement exprès pour sortir deux jeunes souverainistes, 20 ans, 15 ans. Mais il y a un intérêt parce que hier, dans le minivan, avec des gars qui sont
jouer
au football de 16 ans, m'en ils me posent la question. « Hey, t'animes à la radio, parle-moi donc de souveraineté, parle-moi donc du
Jeff.
Canada, parle-moi donc de... » Fait qu'il y a un intérêt, ils en entendent parler, ça
mais
les
c'est
intéresse.
Incroyable. Puis pas juste les jeunes. Hey, l'autre fois, j'étais au resto, j'attendais une de mes amies, puis là, veux pas, j'entendais un peu les discussions
ben
des autres temps. Puis il y avait clairement une date, une première, deuxième date, un autre temps. Puis là, la fille a dit « Toi, la souveraineté du Québec, t'en penses quoi? »
Oh, ouais!
Hey, je m'excuse, mais on n'entendait pas ça il y a 10 ans,
ben,
là.
Non!
Ben, okay. J'aimerais mieux pas entendre ça à ma deuxième date,
ben,
honnêtement.
Autant le savoir! Ben, moi, je trouve que, tu sais, il faut que tu saches un peu les positions.
Oui.
Puis si le gars, il dit « J'ai pas d'opinion », en tout cas, moi, je trouve ça turn off. Mais je préfère quelqu'un qui me dit « Je suis contre » que « Ben, j'y ai pas pensé ».
Mais t'as raison!
Tellement. Donc là,
j'aime ça.
En fin de semaine, c'était un événement et une des affaires qui était frappante, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, mais il y avait aussi des personnes connues. Tu sais, on a un désengagement un peu du monde artistique politiquement depuis plusieurs années, on le dit souvent. Bien, il y avait des artistes et des gens connus du milieu médiatique ou des arts qui étaient présents puis qui s'affichaient, notamment des jeunes influenceurs. Il y avait Lisanne Nadeau qui était là, Pascal Deblois. Il y avait Kim Lizotte qui était présente et plein d'autres mondes. Bien, ça démontre qu'il se passe quand même un petit quelque chose parce que je te dirais que tout le monde se mettait un sac en papier sur la tête il y a quelques années quand on parlait de souveraineté. Mais tout ça pour dire que moi, je pense que tout le monde devrait prendre une petite tisane.
Hein. Ouais.
Quand il est question de mouvement souverainiste, si tu es au PQ, que tu sois à QS, quand il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui te déplaît dans l'autre groupe, là, respire. avant de réagir.
En okay? effet.
T'sais, on avait eu, on a reçu plusieurs personnes de Québec solidaire en entrevue dans les derniers mois. Moi, il y a une question que je pose souvent à QS, c'est allez-vous réussir à vous empêcher de taper sur le PQ alors qu'on a peut-être un référendum qui s'en vient? T'sais, mettons, peut-être ne pas tirer dans la chaloupe. Des fois, j'ai l'impression qu'ils s'attaquent davantage qu'ils attaquent les adversaires fédéralistes.
Charles Milliard est crampé de rire, lui-là. Là.
Ben, il peut bien rire, mais là, ses sondages sont pas extraordinaires.
Oui, ses sondages sont pas... Mais tu sais, je veux dire, le camp du non, d'abord, je dirais pas Charles Milliard.
Ouais,
le camp du non... Ben oui. On regarde ça aller, il dit continuez de vous chicaner.
Ça me fait penser au mouvement féministe des fois, tu sais, des féministes qui s'attaquent entre eux autres parce que t'as pas exactement dit la même affaire que moi. Hey, vous comprenez que diviser pour mieux régner, là, ça fonctionne pour tous les mouvements sociaux, mm-hmm. pour tous les mouvements politiques. Donc, calmez-vous. Là, quand le titre de la presse est sorti, je voyais les péquistes se faire aller sur X.
Oui, mais là, c'est la presse.
Mais... Ouais, mais, oui, c'est ça. Fait que là, c'était comme, mais oui, Québec, Québec solidaire et la presse, tous unis pour détruire le PQ.
Hey, pourquoi le PQ? Vous? Pourquoi le PQ est toujours
c'est
sa victimette de même?
Parce que c'était
mais ils sont toujours victimes de tout.
Oui, mais c'est parce qu'il y a du vrai là-dedans aussi. OK? Il y a le syndrome du persécuté.
Tu le sais, mon vote est volatile pour la prochaine élection.
Oui. Est-ce que ça t'attire du monde qui envoie chier?
Non, je te l'ai dit. Moi, je veux voter pour un gagnant. Quelqu'un qui a une attitude de gagnant. Quand tu dis les autres, ils ont encore parlé de moi. Ah, tu me donnes pas le goût de voter pour toi.
Je trouvais que c'était quand même relativement simple de réagir plus positivement dans le sens de dire le mouvement souverainiste est ouvert à tous. Vous êtes
ben
les bienvenus.
Oui.
Par contre, tu sais, parce que je sais que la deuxième étape de ce discours-là, de dire qu'on n'est pas ouvert aux immigrants, puis tout dans le mouvement souverainiste, c'est ni politique en immigration, puis en laïcité.
Oui.
Puis en langue française. Moi, je suis désolée, mais limiter son immigration, vouloir une intégration qui est harmonieuse, vouloir un espace public qui est laïque, c'est pas raciste.
Okay? Pas du tout.
Donc moi, ça, je décroche quand la prochaine étape, c'est qu'il faut qu'on arrête de protéger notre langue puis de protéger notre vivre ensemble.
Parce que si celle-là, ben je le suis, parce que mon prochain vote va aller à un parti politique qui va m'offrir exactement ce que tu viens de dire.
Regardez, là, je pense qu'on a trouvé l'équilibre qui est recherché. C'est pas si difficile.
Et voilà.
Puis je voyais, c'est ça. Il y avait Mathieu Bock-Côté qui était très réactif en fin de semaine, puis qui a dit que les Oui Québec, c'était des saboteurs. Ouais. Puis, évitons d'attaquer encore plus fort l'autre partie, disons, du mouvement souverainiste que t'attaquerais les fédéralistes.
Ben oui.
Calme.
Puis de toute façon, comme dans n'importe quel débat de société, et je termine là-dessus, chez les Québécois francophones de souche, je vais les appeler comme ça, il y en a qui sont pro-laïcité, puis il y en a qui sont contre la laïcité.
C'est pas monolithique, tout
et
ça,
c'est la même chose chez les personnes immigrantes. Tu vas parler avec des personnes immigrantes, il y en a qui vont dire la laïcité, ça fait plein de sens.
Il y en a qui viennent ici pour ça.
Ben oui, j'ai quitté mon pays parce que j'étais écœuré des prières puis que la femme soit maltraitée. Puis il y en a d'autres qui vont dire ben non, moi, ma religion compte pour beaucoup. Mais ça, c'est. Puis là, je veux pas les séparer en camp. C'est ça dans notre société. Que tu sois une personne immigrante ou que tu sois quelqu'un qui provient de la nationalité québécoise.
Quand tu vois les choses de manière binaire puis que tu n'écoutes pas, ça donne des préjugés comme ceux-là. Moi, je dis écoutons-nous. Puis j'étais là à l'événement en fin de semaine. Je vous dis pas que j'ai tout aimé ce que j'ai entendu.
Oui.
OK, j'animais un panel féminisme et souveraineté. T'sais, c'est sûr, c'est plus woke que moi, dans ma tête, je suis là. T'sais, je veux dire, soyons honnêtes. Mais j'écoute.
C'est quoi le commentaire le plus woke que t'as entendu? Ça m'intéresse.
Ben, je vais t'en dire un, puis c'est controversé.
Vas-y donc.
La question, il y avait un panel aussi sur les Premières Nations, en fait, de personnes issues des Premières Nations. T'sais, moi, par exemple, je trouve que le projet de constitution de Simon-Jolin Barrette, quand j'entends la PNQL dire qu'on aurait dû être impliqué activement dans le processus, je me dis non, c'est une constitution, c'est pour une nation. Vous nous dites que vous êtes d'autres nations.
Oui.
Donc, moi, je mets. Tu sais, ça me challenge beaucoup quand j'entends des propos comme ceux-là.
Je comprends.
Souvent teinté d'un peu, excusez-moi, de méconnaissance des Premières Nations. C'est rempli de bonnes intentions, mais on a 11 Premières Nations et la nation Inuit au Québec. Donc, c'est pas parce que t'impliques un Autochtone puis que tu fais check sur ta liste puis que t'as dit « on est en territoire non cédé » que t'as vraiment impliqué. Tu sais, c'est une grande complexité. Puis ça, c'est le genre de choses qui vient me chercher parce que ça me prendrait 2 heures à leur expliquer. Puis j'ai travaillé longtemps dans les affaires autochtones puis ça m'intéresse vraiment. Mais ça, souvent, c'est controversé puis je vais me pogner avec du monde là-dessus parce qu'ils ont plein de bonnes intentions, mais ça marche pas pantoute, à mon avis, leur raisonnement. Mais... C'est toujours comme ça. Puis sur mon panel féministe, c'est sûr, on a parlé. Puis moi, je me considère féministe, mais à un moment donné, tu sais, par exemple, est-ce qu'on devrait mettre des conditions à la souveraineté? est-ce que le Québec souverain devrait être pré-féministe avant même qu'on aille voter ou non? T'sais, c'est des vrais débats, là. Puis, ouais. T'sais, pour citer Pierre Falardeau, lui, il disait « Si tu mets des conditions à souveraineté, t'es pas progressiste, t'es un trou de cul. » c'est un peu ça. Fait que c'était bien intéressant, mais tout ça pour dire que c'était une fin de semaine où vraiment, on c'était pas juste du négatif. Là. Faut pas juste lire les grands titres dans le journal.
Antonine Iaccarini vous l'aura dit, si vous mettez des conditions à souveraineté...
Non, c'est pas moi qui ai dit ça! J'ai cité Pierre Falardeau. C'est un vrai débat, cette affaire-là.
Vous êtes des trous de cul.
Max aimerait ça, là.
Ben oui! Elle vous l'a dit.
On devrait l'appeler.
Anto, c'est vraiment une belle discussion. Bon, j'ai vu, toi, que tu te chicanes avec le QS, avec le PQ,
avec
les féministes, parce que là...
Il n'est pas arrivé aux bonnes conclusions.
Faut pas mettre
de conditions à souveraineté. Il n'y a rien compris de ce que j'ai dit. Je suis la personne la plus pire. Je parle à tout le monde. J'écoute l'autre. Audi, Alteram, Partem, comme disait Bernard Landry.
Tu fais un gros message anti-division. Résultat, Jeff. Dans le fond, tu te chicanes avec tout le monde.
Mathias, est-ce que je peux compter sur toi pour quelque chose? Quand je vais quitter le studio dans une minute, parce que je suis en retard, là, maintenant, qu'on a, je me suis emballée. Peux-tu empêcher qu'ils fassent des wrap-up, genre, alambiqués?
Qui déforment tous tes propos, là, je m'occupe de ça.
Merci.
C'est... En tout cas, bref. Ça va être quoi, le résultat?
Ça va être le temps d'aller à la pause, oui.
Ça va être quoi, le résultat de la game, à soir?
Les Canadiens vont gagner.
Ah oui, combien?
5-1.
Oh!
Non, mais c'est parce qu'ils gagnent, ils perdent. Après ça, ils regagnent. Il y a comme une tendance là, que j'observe.
Vous l'aurez après à Boulevard 102-1. Antonine Iaccarini n'est
plus
juste...
Y a-tu un match juste... à soir? Oui. Ça aurait été mon genre qui me disait, ben, t'es dans le champ, Iaccarini, parce qu'il n'y a même pas de match à soir.
Antonine Iaccarini n'est plus juste une chroniqueuse politique.
Chroniqueuse sportive.
Elle n'est plus non plus seulement cette tête bien pensante de la politique de Boulevard 102.1 dans le caucus, dans l'émission d'En jase de midi à 12h30, extensionnée aujourd'hui à cause de plein de niaiseries de début de show. Non, elle est aussi maintenant rendue une experte hockey.
En tout cas, à suivre pour ce soir.
5-1 Canadien.
Imagine, j'ai raison.
On va parler entre experts après, avec Alex Laramin, Mathias Turcotte et moi-même du Canadien. Avant circulation.
Oui, je veux juste vous noter un incident sur l'autoroute 20 en direction ouest. C'est à hauteur de l'halte routière à Saint-Nicolas. La voie de droite qui est présentement bloquée. Les services d'urgence sont sur place, mais forcément, c'est pare-choc à pare-choc. Là, ça remonte un peu au-dessus par la 73 vers le pont, s'il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021 par texto.
Anto vient de sûrement courant. D'après moi, t'es allé chicaner quelqu'un. Hein? C'est ça qu'il fallait dire.
Oui, t'as très bien compris le message. Je pense, je sais pas s'il est parti chicaner avec QS ou le PQ.
Ouais,
là,
c'est
mais...
ça. Ou avec les Oui Québec. Elle n'est pas partie chicaner avec ces deux petits jeunes-là. Là.
Mes amis qui sont pas québécois, ouais. Nés ici, sont tout autant souverainistes. Fait que je pense pas que on devrait avoir des vues conservatrices par rapport au souverainisme.
Je vois pas pourquoi on pourrait pas inclure d'autres nations avec nous dans ce mouvement.
Après la pause, on chicane sur le sport avec Alex Laramin.
Jusqu'à passer chez Pièces d'Auto Extra. On dit que les pièces sont jusqu'à deux fois moins chères qu'ailleurs. Manquez pas ça. Pièces d'Auto Extra, Saint-Émile, Amel et Beauport. Piècesautoextra.com. Envie de décrocher cet été? À seulement une heure des ponts, les Aides-Chemins vous attendent. C'est le paradis du plein air, que ce soit pour une descente à vélo de montagne, une partie de golf entre amis ou une sortie relaxante en paddleboard sur le lac. Ou laissez-vous tenter par les délices de la région. Entre deux arrêts agro-touristiques, savourez une crème glacée aux petits fruits locaux et découvrez nos micro-brasseries et nos fermes maraîchères. Dormez sur place dans nos hébergements en pleine nature. Les Aides-Chemins, gourmands, actifs et surprenants. Planifiez votre escapade sur tourisme-aides-chemins. .qc.ca. Hey, saviez-vous que la place pour votre nouvelle voiture, c'est Lévis Subaru? En plus, ils viennent tout juste de déménager dans plus grand et plus moderne, au 5085 Christophe Colomb à Lévis, près de l'autoroute 20. Pour une toute nouvelle expérience client, notre équipe vous attend. Visitez LévisSubaru.com.
3 pour 1, partez!
Hey, il y a du 3 pour 1 ou 3 2 1? Ben, 3 pour 1, c'est impossible!
Pour son 40e anniversaire, New Look offre bel et bien 3 pour 1 sur une sélection de lunettes.
Hey, tu vas où vite de même?
Jusqu'au 25 juillet 2026. Des conditions s'appliquent. Chantal Gravel, opticienne.
Le bon temps est enfin là. Et c'est le moment parfait pour lancer vos projets avec les journées Steel chez Faneuf Équipement Agricole. Jusqu'au 20 juin, à l'achat de produits Steel sélectionnés, obtenez une batterie gratuite d'une valeur pouvant atteindre 499,99 $. Et ce n'est pas tout. Passez nous voir à la succursale de la Durantais et participez à notre concours pour courir la chance de gagner une carte cadeau Faneuf de 250 $. On vous attend au 23 rue Olivier Morel. Certaines conditions s'appliquent, quantité limitée.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, le rôti de bas de palette de bœuf est offert à 6,75 la livre ou 14,88 le kilo. Puis les cerises sont à 2,97 la livre ou 6,55 le kilo. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 27 mai en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
Ça sent l'été, ça sent le baseball. Vos capitales de Québec, quadruple champion de la Ligue frontière, sont de retour pour la saison. Mardi 26 mai à 19h, cérémonie d'ouverture, animation, feu d'artifice et surprise vous attendent. Billets à capitaldequebec.com.
Vous cherchez une solution simple pour gérer vos véhicules commerciaux? Avec le service Ford Pro chez Lévis Ford, on s'occupe de tout, du choix du véhicule au financement jusqu'à l'entretien. Moins de gestion, plus d'efficacité. Passez-nous voir dès aujourd'hui. Lévis Ford, les forts de Lévis.
Jamais j'aurais pensé me retrouver en chaise roulante ou en béquille canadienne pour me déplacer. Là. Jamais, jamais, jamais. Là. Fait que, sincèrement, faites attention. C'est vite arrivé un accident.
En une fraction de seconde, la vie de Sarah Maud a complètement basculé. C'était le 20 février 2016. Ce jour-là, sa promenade en motoneige a tourné en catastrophe. Personne ne savait si elle allait survivre. Tout aurait pu s'arrêter pour elle si l'équipe du CHU de Québec Université Laval ne lui avait pas donné de deuxième chance. Donnée pour vivre aux fondations du CHU de Québec.org.
Béville Climatisation à votre service depuis 1967. Découvrez les thermopompes murales Lennox propulsées par Samsung. Ultra silencieuses, intelligentes et conçues pour le confort absolu. Miville, l'excellence tout simplement. Visitez miville.ca.
Si les locataires aiment tant recommander Promutuel Assurance, c'est entre autres pour ses bons conseils.
Et aussi parce que ça vaut le coup.
Oh, vous vous êtes assuré pour pas cher.
Mais hein, puis ça protège mes affaires qui, elles, valent cher.
Je comprends. Surtout que c'est pas l'assurance de votre proprio qui va les protéger.
Mais c'est bien pour ça que je l'ai prise.
Votre assurance locataire?
Oui.
Chez Promutuel?
Oui, monsieur.
Excellent. Alors, pour une assurance locataire qui vaut le coup,
mais hein,
choisissez-vous aussi l'assureur qu'on aime recommander. Les conditions s'appliquent. Promutuel Assurance est la 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 la.
Arrêtez ce que vous faites et saisissez une rare opportunité. Le rassemblement des concessionnaires Nissan de Québec et Lévis dès aujourd'hui et jusqu'à mercredi seulement. Voyez de près nos joies vedettes comme le flamboyant Kicks et comparez-le avec ses concurrents. Mettez-nous au défi. Vous verrez qu'il domine autant au niveau de la performance que du prix. En location sur 60 mois à partir de seulement 88 $ par semaine. Faites vite, ça finit mercredi. Profitez-en. Détails chez vos concessionnaires Nissan de Québec et Lévis.
Décourante, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre des produits québécois sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15 % Visitez déco-rampe.com.
Dans un, on en jase.
Vous voulez réécouter le caucus avec Antonine Iaccarini? Eh bien, ça sera disponible sur le blvd.fm. C'est également une superbe façon de nous écouter. Via la web radio, BLVD 102.1, notre application disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. Autre façon de nous écouter. Et si vous êtes à la maison, télétravail, vous dites écoutez BLVD à votre haut-parleur intelligent et on apparaît dans vos oreilles. À la météo, journée plus maussade, c'est de la pluie pour aujourd'hui, 16 degrés. Il y aura même des nappes de brouillard qui vont se former durant la nuit. Demain, quelques averses, 24 degrés. On parle même risque d'orage tard en après-midi. Donc, soyez vigilants demain pour le retour à la maison. 23 degrés, alternance de soleil et nuages mercredi. On annonce la pluie à plus long terme, jeudi, vendredi, samedi. Donc, une semaine un petit peu plus maussade sur Québec. Mathias, circulation?
Oui, juste vous rappeler, incident, autoroute 20 direction ouest, c'est à hauteur de l'halte routière à Saint-Nicolas, la voie droite qui est bloquée. Les services d'urgence qui sont sur place, mais ça crée un lourd ralentissement dans le secteur. Également, vous signaler qu'avenue Taniata, ça va être difficile au cours des dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome sur la rive sud. Ça va être difficile au cours des prochains mois là, dans le secteur de rue Sainte-Hélène. C'est en travaux et ça se voit. Là. C'est du pare-choc au pare-choc sur quelques kilomètres. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021 par texto.
En manchette, Mathias.
Mark Carney n'a pas l'intention d'être un spectateur pendant la campagne référendaire en Alberta. C'est du moins ce qu'il a dit aujourd'hui. Je vous le cite. Je vais certainement faire campagne pour l'unité canadienne, donc l'Alberta, qui auront un référendum là, au cours des prochains mois. Puis c'est un référendum plus ou moins pour la souveraineté parce que ce qu'on demande en gros en octobre prochain, c'est: est-ce que vous voulez qu'on enclenche des processus pour faire un référendum sur la souveraineté. Fait qu'on n'est pas encore rendu au référendum. Mm-hmm. Pourtant, Mark Carney qui voulait lancer un message clair aux Albertains, notamment de faire très attention concernant le vote qui va se tenir en octobre prochain. On a également qualifié le processus d'un bluff très dangereux du côté du premier ministre canadien. Juste vous parler d'un sondage justement qui a été mené en Alberta. 60% des répondants de ce sondage-là voteraient non à la question formulée pour l'indépendance justement de l'Alberta contre 35% qui voteraient oui. Christine Fréchette va annoncer cet après-midi du côté de Sherbrooke une abolition de la TVQ pour certains produits d'épicerie. On parle notamment de bar tendre, de noix, de muffins ou encore de légumes déjà coupés. Cette mesure-là qui va coûter 100 millions de dollars par année et qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années selon les informations qui nous sont rapportées. Christine Fréchette qui continue donc les annonces qui en est pour un budget total de 292 millions de dollars depuis sa rentrée en tant que premier ministre. Je vous rappelle que l'enveloppe qui était disponible à Mme Fréchette, c'était seulement 250 millions. Est-ce que les partis au pouvoir priorisent leur circonscription lorsqu'il est question de financement dans les infrastructures scolaires? C'est la question que Gabrielle Nadeau-Dubois a tenté de répondre dans son rapport qui a été déposé aujourd'hui. Et la réponse résumée, ce serait que oui. Pour vous donner une idée, là, la CAQ investit 1 085 $ par élève, donc c'est proportionnel. 1 085 $ par élève dans les circonscriptions caquistes. Investit seulement 466 $ pour les circonscriptions péquistes par élève.
Aïe, aïe, aïe.
Et 235 $ pour celles solidaires. Donc, on baisse de moitié.
Fait que voter pour le pouvoir, ça rapporte, les amis.
Pour ce qui est des infrastructures scolaires, ça semble que oui. Là, puis on pourrait se dire, c'est parce que les écoles dans les circonscriptions caquistes sont peut-être en moins bonne situation, sont peut-être plus âgées. Au contraire, les établissements dans les circonscriptions caquistes, les établissements scolaires sont ceux en meilleur état de tous les partis politiques et ce sont celles des moins âgées également. Donc, il n'y a rien vraiment qui explique le fait que les investissements en matière d'infrastructure scolaire soient beaucoup plus élevés proportionnellement parlant par élève dans les circonscriptions caquistes qu'encore pour celles péquistes ou encore celles solidaires. Et je termine avec ça, la fille de Brian Mulroney, Caroline Mulroney, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle va démissionner de son poste de ministre des Affaires francophones et de présidente du Conseil du Trésor le 5 juin prochain. Elle va de fait même renoncer à son siège d'élu. C'est une publication sur les réseaux sociaux qu'elle fait pour annoncer le tout. Elle a notamment remercié dans sa publication son premier ministre Doug Ford, les habitants de sa circonscription et ses différents collègues. Elle explique sa décision surtout avec sa situation familiale, notamment la mort de son père il y a de cela 2 ans, ou encore ses enfants qui ont pris leur envol dans leur vie d'adulte, étant âgés des jeunes adultes. Par contre, la question se pose avec Pierre Poilievre qui semble de plus en plus en situation difficile pour les conservateurs. Est-ce qu'elle pourrait être tentée au cours des prochains mois ou encore des prochaines années de faire le grand saut et devenir une potentielle chef du Parti conservateur du Canada?
C'est clair que ça va être à suivre. 418-971-1021 pour nous dire vos prédictions pour le match du Canadien de Montréal contre les Hurricanes de la Caroline. C'est ce soir, 20h, sur les ondes de TVA Sports. Entre-temps, on écoute la façon que le match est terminé, le match numéro 2, samedi soir. Série égale, une victoire de chaque côté. Les Hurricanes ont joué un très fort match samedi dominant les Canadiens de Montréal. Et pour en parler avec nous, on a Alex Laramée, notre chroniqueur sportif. Alex, comment vas-tu?
Toujours de bonne humeur, malgré la pluie, on est là.
Exactement. Alex, c'est pas mentir de dire que les Hurricanes ont eu le parfait contrôle de ce match-là malgré une victoire en prolongation. Le double des lancers du Canadien, le triple de mise en échec, le double du temps de possession. Bref, les Canes ont joué un match pratiquement parfait samedi.
Ouais, on voit que le premier match, là, c'était pas une aberration, là, mais on a vu que les Hurricanes étaient vraiment pris avec la rouille là, dans la première période. Puis là, on a vu le vrai jeu des Hurricanes, le vrai jeu de Rod Brind'Amour. On a suffoqué les joueurs du Canadien, mais on a quand même, malgré tout, réussi à se garder dans le match. Là, Josh Anderson qui a sorti une bonne performance. Mais c'est ça en série, tu as besoin d'un gars ou deux qui se lèvent au bon moment, puis qui te permet de, justement de gagner ou du moins de rester dans le match. Mais en prolongation, le revirement de Kapanen, là, ça a fait mal. Puis Nicolas Ehlers avec un tir parfait quand même, on va y donner. Là, il a fait mal aux Canadiens, puis nivelé la série 1-1 avant le retour à Montréal ce soir.
Mathias, dirais-tu que le Canadien semblait fatigué dans ce deuxième match contre les Hurricanes? Tu sais, souvent, ça fait ça. Tu as eu deux séries de 7 matchs. Tu es encore sur le beat le premier, puis là, le deuxième, oups, le corps vient malheureusement de jouer des tours.
Ben, ça pourrait être de la fatigue. Moi, je le voyais. C'est comme si on s'était pas présenté pour jouer. Est-ce que c'est côté mental? Est-ce que c'est côté fatigue? La question se pose parce que pendant le premier match, on avait tellement d'énergie que je sais pas, on est capable d'en mettre de l'énergie. Puis malgré deux grosses séries, d'en avoir, on l'a prouvé dans le premier match. Là, on a comme semblé se faire prendre au jeu par les Hurricanes, rentrer dans leur façon de jouer, pas être capable de se créer des opportunités non plus, d'envoyer des rondelles au filet. Les Hurricanes mettaient beaucoup de pression en entrée de zone, puis on n'a pas été capable de passer outre ça à longueur de la partie. Il va falloir qu'il y ait des ajustements, notamment sur l'avantage numérique, qu'on a été incapable de s'installer en zone offensive, en entrée de zone, être capable de créer de l'ouverture pour amener des rondelles au filet, ce qu'on n'a pas été capable de faire non plus. Ce match-là, c'est pas un désastre pour le Canadien parce qu'on n'a pas vu les Hurricanes, oui, dominer le Canadien, mais... Les Hurricanes ont dominé le Canadien parce que le Canadien était capable de rien créer. Il faut juste trouver le moyen de faire fonctionner un peu plus notre offensive. Puis ce match-là, ben, on aurait pu le gagner.
Ça va prendre des rondelles derrière les défenseurs. Les Hurricanes ont ramené un attaquant, leur troisième, beaucoup plus haut en zone offensive, ce qui fait en sorte que le Canadien n'était jamais en surnombre, contrairement au premier match. Alors, le Canadien jouait beaucoup est-ouest au lieu de jouer nord-sud. Et je pense que ça va prendre une stratégie différente. Joe Veleno prend la place d'Oliver Kapanen. Sans surprise pour le troisième match. Et Lane Hudson est en santé, mon Alex.
Ben oui, exactement. Là, je veux dire, Kapanen, c'est quand même bizarre. Un gars qui a marqué 20 buts en saison régulière puis qui est incapable de juste être un gars de quatrième trio en série.
Exactement. Complètement perdre sa confiance. Quand on dit que c'est mental, là, OK. Hein?
Ah ouais, totalement. Puis honnêtement, on s'attendait tous à ce qu'il soit retiré de la formation. Puis d'amener Veleno, je pense que ça a quand même du sens. Je veux dire, Veleno, offensivement, c'est absolument zéro. Mais il a peur de la vitesse, il est capable de suivre le rythme de jeu. Je pense que c'est un peu ça qu'on a peur du côté de Gallagher, là, qu'il soit tout simplement trop lent. Fait que, comme tu l'as dit, mettre la rondelle derrière les défenseurs, puis on va espérer d'avoir un petit peu plus d'échecs avant parce que lors du premier match, on arrivait à attaquer la défensive des Hurricanes au niveau de la ligne bleue, puis là, c'était complètement bloqué. Donc oui, d'aller jouer plus en fond de zone, je pense que ça va être... Une option à envisager là, pour le Canadien ce soir.
Ouais, puis il faut s'attendre à ce que les Hurricanes jouent un match très fermé compte tenu qu'ils sont à l'étranger. Donc ce matin, j'avais donné comme prédiction 6-3, mais je pense que j'étais trop sur une balloune. Je viens de penser que les Hurricanes vont fermer le jeu en crime, même si Frédéric Anderson a de la difficulté. Je vais mettre tout de même le Canadien gagnant, mais 2-1, je pense que ça va être un match très hermétique.
OK. Moi, tu vois, je vois un petit peu plus d'attaque là, dans ce match-là. Justement, je pense qu'Anderson est capable d'en laisser une ou deux zézettes, là, surtout avec la foule du Canadien qui va essayer de mettre de la pression sur lui. Moi, je vois une victoire du Canadien 4-3 ce soir.
Ouais, moi, honnêtement, j'ai comme un sentiment que notre offensive va se réveiller, puis pas nécessairement parce qu'on va faire tant de tirs. On va en faire plus, mais on va pas faire 30-40 tirs. Là. Mais Anderson, ça va être difficile ce soir dans les buts de la Caroline. 5-2 Canadien. Alors, ça va être le dernier match de Frédéric Anderson. En tout cas, du moins, le match d'après, ça va pas être dans les filets si j'ai après. T'sais.
Dans le par texto également, on est présentement pour le Canadien de Montréal, mais on parle de Noah Dobson qui joue pas son meilleur hockey à l'heure actuelle. Je pense qu'il est encore ennuyé là, justement par sa blessure. Hey, parlant de blessure, Carl Makar jouait avec l'épaule droite, semble-t-il, séparé hier. Nathan MacKinnon a bloqué un lancer avec le dedans de son genou, ça a pas fait du bien. Et l'Avalanche qui perd 3-0 dans la série contre les Golden Knights de Vegas. Mitch Marner en voie d'atteindre la finale de la Coupe Stanley.
Ben ouais, honnêtement, ce match-là, là, t'sais, c'est un euphémisme de dire que Colorado ne pouvait pas l'échapper.
Mais la manière. 3-0.
Ben c'est ça, la manière dont ils ont perdu le match, c'est impossible qu'ils reviennent dans cette série-là. Puis une statistique intéressante, Vegas, cette saison-ci, en retard de 3 buts, avait aucune victoire. Hein? Puis Colorado, avec une avance d'au moins 2 buts, avait aucune défaite. Tout laissait présager que Colorado ne pouvait pas échapper ce match-là. Puis ils l'ont fait mentalement. Les gars sont blessés. Honnêtement, Je pensais jamais dire ça, mais je pense que Vegas finissait en 4.
Que Vegas finit en 4 et va se retrouver en finale de la Coupe Stanley. On pourra en parler demain. Hey, un petit mot sur le Grand Prix de Formule 1, Alex, avec une 4e victoire consécutive pour le jeune pilote de l'écurie Mercedes, Kimi Antonelli. À seulement 19 ans, peut-être qu'il va réécrire un peu l'histoire de la F1.
Ben, tu sais, dans la F1, j'ai l'impression, je me prétendrais pas un grand expert là, de Formule 1, mais moi, les tendances que je vois, c'est qu'il y a souvent des changements techniques. Là, on parle beaucoup de cette année, il y a beaucoup de pilotes qui se plaignent justement des changements qui ont été faits. C'est un peu des phases. On a vu Verstappen qui a dominé. Avant ça, il y avait Lewis Hamilton. Avant ça, il y avait Sébastien Vettel. Donc, on sent qu'avec des changements techniques, il y a certaines écuries qui dominent. Donc là, visiblement, on s'en va vers une phase un petit peu plus Mercedes. Le McLaren avait bien fait quand même dans les 2-3 dernières années. Mais oui, ça profite au jeune Kimi Antonelli qui est quand même tout un talent là, au niveau d'être un pilote. On a vu Lewis Hamilton qui est un des pilotes très appréciés à Montréal, le serrer dans ses bras. C'était quand même des belles images à voir du côté de Montréal.
Alex Laramie, on se reparle demain après le match du Canadien de Montréal. C'est 20h ce soir sur les ondes de TVA Sport.
Yes, on se reparle après la victoire du Canadien.
Yes, salut Alex. Alex Laramie, chroniqueur sportif et journaliste au 99.5 Montréal. Ça brasse, ça continue de brasser aux États-Unis. Hey, Donald Trump qui a décidé de débloquer 1,8 milliard, Mathias, pour les gens qui sont harcelés par le système de justice. Ouais, pour les gens qui avaient pris possession du Capitole lors de l'insurrection en 2022. Ça fait pas du tout l'affaire autant des démocrates que des républicains. On va en parler avec notre chroniqueur en politique américaine, Luc Laliberté, immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102.1.
Ce qui se passe dans notre ville, tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
OK, oui, on jase à Boulevard 102.1, l'émission On en jase. Il est présentement 13h19. Vous avez manqué le caucus avec Antonine Iaccarini. C'est disponible sur le blvd.fm et c'est également notre web radio. Mathias, c'est encore des problèmes dans la circulation?
Oui, bien en fait, je parlais d'un incident tout à l'heure. Autoroute 20, direction ouest à hauteur de l'halte routière à Saint-Nicolas. Ça, c'est réglé, ça circule bien. Par contre, je ne sais pas si vous avez des informations. 88 971 1021 par texto, si oui. Je ne sais pas si c'est un accident ou simplement des travaux, mais il y a de plus en plus un ralentissement qui s'accumule. Autoroute 20, direction ouest et est, un peu avant Taniata. Il y a des travaux dans le coin, mais là, c'est dans les deux directions qu'il y a comme un ralentissement. Je ne sais pas si peut-être il y a un accident dans le coin. Là, si vous avez quoi que ce soit, 88 971 1021 par texto.
Oui, communiquez avec nous. Vous êtes toujours les bienvenus pour nous parler des sujets également qu'on discute en ondes. On fait le saut immédiatement politique américaine et on va rejoindre notre chroniqueur en politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair sur les médias sociaux, Luc La Liberté. Luc, comment vas-tu?
Je vais particulièrement bien. J'imagine que vous m'invitez ce midi, bien sûr, parce qu'il y a un match important ce soir, le Canadien qui revient à Montréal.
Exactement, Luc. On veut parler d'hockey avec toi pendant une dizaine de minutes. Non, malheureusement, il va falloir parler du président de l'autre bord de la frontière, Donald Trump. Qui là, Luc, c'est 1,8 milliard pour les gens qui sont harcelés par le système de justice. Attends, je vais réfléchir qui pourrait être harcelé par le système de justice. Ah oui, ceux qui ont pris d'assaut le Capitole en 2022. Hey, c'est de l'argent bien investi.
Écoute, c'est les tractations qui ont mené à l'établissement de ce fonds d'indemnisation contre l'instrumentalisation politique.
Le nom complet
en français, c'est ça, c'est... Oubliez ce que vous avez vu le 6 janvier 2021.
C'est ça.
Il n'y avait pas une horde de gens qui ont attaqué le Capitole, qui sont entrés à l'intérieur du Capitole. Pour être clair, désolé, un peu vulgaire ce midi, qui ont répandu de la merde sur les bureaux, sur les murs, fracassé des vitrines, mais surtout qui s'en sont pris physiquement à des policiers. Oubliez tout ça.
Ouais.
Ces gens-là auxquels on a fait des procès en bonne et due forme, qui ont été souvent très durement critiqués par les juges eux-mêmes avant d'être envoyés derrière les barreaux. Il y avait parmi ces gens-là des gens liés, là, c'est pas une rumeur ou une question d'opinion ou de penchant politique, ils étaient suivis souvent par le FBI, plusieurs d'entre eux comme membres de groupes d'extrême droite, de milices d'extrême droite. Le FBI les suivait, les avait déjà fichés. Donc, Ces gens-là, c'est beaucoup de monde, se retrouvent derrière les barreaux après des procédures judiciaires normales. Et là, le président les a fait sortir grâce à une grâce présidentielle et il a obtenu ensuite du département de la justice c'est 1,776 milliards pour que ça fasse 1776 comme, bien sûr, l'année de l'indépendance américaine. Mais donc, on arrondit toujours. C'est la raison pour laquelle on dit 1,8 milliard de dollars. Mais maintenant, ces gens-là, dont l'ancien chef des Proud Boys, ils peuvent maintenant, et c'est commencé, s'adresser au département de la justice, au gouvernement américain, pour obtenir, en plus d'avoir obtenu une grâce présidentielle, d'obtenir de l'argent. Si ce n'est pas l'arnaque la plus choquante impliquant un président américain, impliquant le département de la justice dans l'ensemble de l'histoire américaine, je ne sais pas ce que c'est. Et soyons clairs, Donald Trump n'est pas le premier président américain à tricher. Il le fait à une échelle qui est absolument extraordinaire et qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Et donc, ce n'est pas le premier à le faire. Mais de tout ce qu'on a fait, de tout ce pourquoi nous avons des preuves, c'est l'arnaque la plus importante, la plus grosse. Ça devrait être la plus choquante. Ça l'est pour une majorité de gens. Et ce qu'on surveille ces jours-ci, c'est que ça l'est pour beaucoup de républicains aussi maintenant au Congrès. Pour des élus, c'était, semble-t-il, en tout cas dans ce qu'ils disent, la ligne à ne pas franchir. Est-ce qu'ils vont aller maintenant jusqu'à voter avec des démocrates pour dire « Non, ce fonds-là, nous, on va le bloquer » parce que le Congrès a des pouvoirs limités, mais il a quand même des pouvoirs dans ce dossier-là. Est-ce qu'ils vont maintenant passer de la parole aux actes ou encore, comme on le dit parfois dans le jargon, est-ce qu'ils vont se faire aller uniquement le mâche-patate parce que des élections approchent et que c'est impopulaire? On verra. Mais sachez maintenant que c'est pas une chose, c'est pas être gauche-droite, c'est pas être républicain ou démocrate, c'est littéralement dénoncer une arnaque. Alors, est-ce que des républicains qui le disent maintenant en mots vont passer à l'action et se ranger du côté des démocrates pour dire ça ne fait aucun sens? On verra.
Bien, Luc, il le faut. Il le faut parce que dans les faits, on va venir donner de l'argent à des bandits. On va venir donner de l'argent à des gens qui ont commis des actes criminels. Donc, à un moment donné, il faut que la démocratie se lève. Il faut qu'on protège cette institution-là qui est le Capitole et la démocratie aux États-Unis. Ça n'a pas de sens. Écoute, sinon, on va envahir tous les parlements des gouverneurs. T'sais. On va envahir tous les hôtels de ville. C'est laisser place à l'anarchie. Là.
Si on avait dit il y a 10 ans, avant l'entrée en scène de Donald Trump, le dirigeant d'une des milices d'extrême droite les plus intenses, et il y a là-dedans des suprémacistes blancs, si on avait dit le dirigeant de cette formation-là, de cette milice-là, va être compensé par le gouvernement américain, personne n'y est recru.
Mais
une fois de plus, on se dit, on aurait mis ça dans un scénario de série télévisée et de film, on aurait crié, puis je pense avec raison, à l'exagération, à la déformation. Mais là, c'est même pas un scénario. Ça se passe pour vrai, sous nos yeux, présentement.
Aïe, 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 c'est décourageant. Parlant d'un autre dossier décourageant qui touche le président américain, c'est l'Iran, parce que là, Donald Trump est en train de négocier à nouveau avec l'Iran. Là, on dit toujours, on est proche d'un deal, on est plus proche. Bref, on ne sait jamais sur quel pied danser. Mais là, ce deal-là, ça serait juste pour rouvrir le détroit d'Hormuz. Il n'y aurait rien d'autre. Il n'y aurait rien sur le nucléaire. Il n'y aurait rien pour la population qu'on voulait tant libérer, mais que ça ne dérange plus trop qu'il y ait encore un tyran iranien à la tête. Donc, bref, c'est un échec total en géopolitique.
Je vais me garder juste une petite gêne avant de dire total. Mais pour bien montrer, là encore, comment les choses évoluent. Et on a l'impression que Donald Trump joue pour lui de plus en plus et de moins en moins pour son équipe étant bien sûr le Parti républicain. Il s'agissait d'entendre hier les sénateurs républicains et certains élus à la Chambre des représentants se relayer pour dire que là, ça ne passait pas. C'est que depuis 24 heures, un peu plus de 24 heures, maintenant 36 heures, on discute effectivement d'un cessez-le-feu, d'une prolongation du cessez-le-feu actuel. On prolongerait de 60 jours. Mais tu l'as bien souligné, ce qui est officiel, parce que ce qui circule jusqu'à maintenant, c'est les Iraniens disent on ne se dotera pas de l'arme nucléaire. On ne l'avait pas avant, puis la CIA disait ils ne l'ont pas, donc ce n'est pas un gros engagement. On se dit également on est prêt à ouvrir le détroit d'Hormuz, mais si on l'ouvre, on va oublier cette idée qu'on avait avancée d'un péage, c'est-à-dire qu'on va exiger un dédommagement à l'Iran pour passer le détroit. On ne le faisait pas avant le conflit non plus. Et ce dont on est certain, c'est qu'en échange, les Américains disent « Nous, on va lever, pour que le blocus ouvre, on va lever notre propre blocus, mais le blocus également sur, le long de la côte, ce qui permet au port iranien d'être libéré et au pétrole iranien de recommencer à circuler, à être échangé. » Mais toute la question du nucléaire, et c'est très flou, semble être en suspens au moment où on se parle. Donc, c'est là où les républicains sont terriblement déçus et où ils disent au président « Ouais, on sait que vous êtes impatient, vous regardez les sondages comme nous, il y a des élections qui s'en viennent, mais est-ce que vous n'êtes pas en train, grosso modo, de céder en raison d'un manque de temps ou des pressions, est-ce que vous n'êtes pas en train de trop céder à l'Iran? » Et en Iran, ça ne va pas bien, soyons clairs, ce n'est pas une victoire éclatante de l'Iran. C'est que l'Iran, en position de survie, est capable de dire aux États-Unis non sur deux choses, ou à tout le moins d'utiliser deux leviers. Le fameux détroit d'Hormuz, et ça, on le voit maintenant à l'échelle planétaire, à quel point bloquer le détroit d'Hormuz, ça coûte cher et c'est pénible dans un tas de secteurs, pas que pour le secteur pétrolier. Et l'autre, c'est ce fameux uranium enrichi. Rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, il y a deux semaines, les Américains disaient, ou le président Trump disait, on va aller le chercher s'il le faut, en territoire uranien, l'uranium enrichi. Ça coûte terriblement cher comme opération.
Ben oui.
C'est très, très risqué et c'est très, très complexe. Les Iraniens ne parlent plus maintenant de sortir eux-mêmes leur uranium enrichi et de le remettre aux Américains ou à un autre pays occidental. Donc, il reste quoi sinon autour de la table pour que le président Trump puisse sortir de cette opération-là et dire aux Américains « Voici le bilan et voici ce pourquoi nous avons frappé l'Iran ». Est-ce qu'on va avoir l'équivalent de ce qu'on avait avant ou moins? Alors qu'on, écoute, on disait presque, j'écoutais des commentaires entre amis l'autre jour, puis on disait, on a l'impression que le président a gagné tellement de fois que c'est un 4-7 entre l'Iran et les États-Unis. Donc, c'est, mais combien de fois le président a dit on est victorieux? Ah, c'est
ben oui.
Sa formule. Je vois mal comment on peut, tu me pardonneras l'anglicisme ou le terme anglais, mais comment on peut spinner maintenant la sortie de crise, parce que c'est ce qu'on cherche, comment on peut la présenter comme étant une victoire. Donc, attendons, ça discute, et c'est une bonne nouvelle quand on discute. Et si on ouvre le détroit d'Hormuz, il y a plein de gens qui vont pousser un soupir. Mais dans une perspective strictement américaine, est-ce que Donald Trump et son administration peuvent présenter cette opération à leurs concitoyens comme étant... c'était nécessaire et c'est une victoire où voici ce qu'on vous rapporte et qu'on a gagné, le bilan, il semble bien mince au moment où on se parle.
Je termine là-dessus, Luc Laliberté, la plus grande puissance au monde, mis KO par l'Iran et abandonné par tous les pays, normalement, stratégiquement, qui l'auraient appuyé. C'est une catastrophe pour les Américains. Vivement les élections de mi-mandat. Luc Laliberté, toujours un bonheur de te parler.
Une bonne fin de journée à toute l'équipe, aux auditeurs. Bye!
Salut Luc! Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine à Boulevard 102.1, également producteur des capsules La Liberté en clair. Mathias, les travaux font jaser au centre-ville.
Oui.
Puis pas à peu près, et il y a un propriétaire de plein de restaurants au centre-ville, Yannick Parent, qui a posté sur sa page Facebook en fin de semaine. « Hey, regardez ça en avant de mon café Buade! C'est un cratère! » Un cratère d'à peu près 10 pieds de profond.
Mais un cratère, tu parles-tu genre un cratère au niveau des nids de poules qu'on avait cette année?
Non, la rue est un trou.
On peut pas circuler, on peut pas marcher, c'est vraiment un trou.
La rue est un trou. Et pourtant, dans ces travaux-là, la ville avait dit qu'il y aura des mesures d'atténuation.
D'accompagnement.
D'accompagnement. Les gens pourront avoir accès à vos commerces. Mais on va parler avec Yannick Parent immédiatement après cette courte pause à Boulevard 101 parce que ce que la ville dit puis ce que la ville fait, ouais, c'est souvent différent. On revient à l'émission On en jase sur Boulevard 102.
On en jase avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.
Exactement 13h36. Minutes, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. Le retour de Denis avec Denis Véro et Audrey va suivre de 14h à 18h. Et à 18h, c'est Marceau le soir. On est lundi. Il s'entretient avec Maître Marc Bellemare. Possibilité d'averse aujourd'hui, 16 degrés. Donc, va peut-être en tomber encore un petit peu aujourd'hui. Demain, c'est 24 degrés, mais possibilité d'orage violent tard en après-midi. Donc, à suivre. 23 degrés alternance de soleil et nuages pour mercredi. Et ça va être 11 degrés de la pluie pour jeudi. Le retour du temps froid. Mais ne désespérez pas. et restez à l'antenne de Boulevard 102. On fait tout pour vous divertir. 418-971-1021 pour nous écrire. Et également, si vous voulez nous écouter, la meilleure façon, c'est notre application BLVD 102.1, disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. Les travaux. Mathias, la ville est fendue en deux par les travaux. Et à chaque fois qu'on en parle au maire Marchand, ben tu le sais, tu es sur le terrain, c'est toi qui le questionne. Il dit... Ben non, ça va bien aller. On parle aux commerçants, on parle aux citoyens, on prévoit les choses d'avance, puis ça fait en sorte que tout va bien en ville. Je me trompe-tu?
Honnêtement, ça ressemble un peu à ça. Puis même des fois, il y a le discours de des travaux, c'est nécessaire. Si ça se passe pas bien, ben il y a des commerçants qui vont partir, il y en a d'autres qui reviennent. C'est ça, la vie économique.
C'est ça.
Ben, c'est arrivé par moments que le maire tienne ce genre de discours-là. Puis là, du côté de la ville de Québec, on a les travaux préparatoires du tramway, mais on a autant de travaux que des années précédentes.
Exactement.
Donc, ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus de travaux, puis je pense que ça commence à se faire sentir sur les un peu partout en ville, le monde s'en rend compte.
Ouais.
Là, pour vrai qu'on a plus de travaux. C'est une année qui va être difficile, puis ça va être des années difficiles en termes de travaux.
Vraiment, vraiment. Notre prochain invité, Yannick Parent, qui est président du groupe Sona. Ça possède plusieurs restaurants à Québec. Ça inclut le Bello Restaurante, la Bûche, le Don Vegan, le Pépé, le Clan, la Bûchette, le Paulina et le Café Buade. Il a attiré mon attention ce week-end sur ses médias sociaux lorsqu'il a publié la rue Buade, qui n'est plus une rue, qui est un immense trou, mais les piétons n'ont pas de place pour avoir accès à son commerce du Café Buade. On va justement s'entretenir avec lui. Monsieur Parent, merci beaucoup pour votre participation à l'émission d'En Jase.
Merci pour l'invitation, puis salut à toute l'équipe.
Good. Monsieur Parent, vous permettez que je vous appelle Yannick?
Ben oui.
Excellent. Yannick, t'as vraiment attiré mon attention. Est-ce que la rue Buade, c'est vraiment un énorme trou? Puis d'habitude, quand il y a des travaux, tu sais, il y a toujours une genre de petite passerelle de bois, des 2x4 sur lesquels les gens peuvent marcher. Mais là, je comprends, la porte principale de ton commerce Café Buade est complètement inaccessible.
Oui, on peut accéder par la rue du Trésor, qui est juste la rue en billets. Mais tu comprends que les gens ne le savent pas, puis tout le monde rentre par la porte d'entrée. C'est logique. Fait que c'est certain que ça m'a amené beaucoup de problématiques. Mais en même temps, tu sais, je le savais, faut s'y faire. Il y a beaucoup de travaux à faire. C'est vrai que le maire, en passant, il travaille beaucoup avec les commerçants. Il y a une équipe exceptionnelle derrière de lui qui font en sorte qu'il nous écoute, qui essaie de nous exposer puis de nous trouver des solutions pour qu'on finisse par faire quand même des bons chiffres. Puis on travaille vraiment en équipe là-dedans, puis je peux pas me plaindre par rapport à ça. Pour vrai, ils sont là, puis ils ont beaucoup d'écoute, puis on apprécie énormément.
Mais je trouve ça...
Ça n'empêche pas qu'il y a un trou dans la rue pareil. À un moment donné, il faut y faire les travaux. Fait que c'est certain que je finis par en rire un peu. Je finis par essayer de faire un peu de publicité parce que ma pub a quand même fonctionné en fin de semaine. J'ai quand même fait des pas pires chiffres, puis le monde vient nous encourager, puis ça a fait bouger les choses. Mais c'était quand même stressant pour le staff, pour la nourriture d'un frigo, pour... C'est pas évident. Là. Je cacherais pas que c'est pas évident. C'est beaucoup de casse-tête.
Puis c'est sûr que c'est pas facile là, pour voir des images. Là. C'est vraiment l'accès au commerce qui est bloqué. Je trouve intéressant que tu en parles, que la ville est vraiment présente, vous accompagne, parce que il y a beaucoup de négatifs parfois qui revient lorsqu'on parle de travaux, mais de ton côté, est-ce que tu as les mesures d'accompagnement que la ville a mis? On sait qu'il y a à votre disposition jusqu'à 30 000 $ d'aide au maximum là, pour ce genre de travaux-là. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça vous a vraiment aidé les différentes mesures d'accommodement qu'on a mis en place?
Question monétaire, non. Parce que ça nous prendrait, tu sais, un loyer dans ce coin-là, c'est ça par mois. Ça nous prendrait beaucoup plus. Mais question écoute, question affichage, question tout ce qu'on essaye de faire avec eux. J'ai la bûchette qui est juste en arrière. J'ai essayé d'agrandir ma terrasse. Ils m'ont donné le droit. T'sais, ils sont quand même à l'écoute pour qu'on aille en chercher un peu plus ailleurs. Puis sont là, sont très proactifs. Moi, je peux pas me plaindre de la ville. Puis les gens de l'équipe du maire, vraiment pas. Je peux me plaindre dans la vie là. Je peux chialer, mais là, je serais menteur de le faire. Au contraire, ils sont là, ils sont à l'écoute. Ils sont très dynamiques. Ils nous trouvent des solutions. Vous savez qu'en ville, des fois, demander un permis pour une certaine affichage, tout ça, ça peut prendre des mois. Là, automatiquement, c'est plus rapide. Et pour vrai, moi, je peux pas me plaindre. Là. Ça bouge. Ça bouge.
Pour ce qui est de la rue de la Buade, est-ce que ça va être comme ça pour l'été en entier ou c'est seulement pour quelques semaines?
Non, pour quelques années peut-être. Okay. Parce que Buade, je sais pas par cœur, mais je pense que c'est presque 2 ans total, 2 étés complètes pour refaire la rue, qui est un peu comme le coin de rue juste en face du Dorsay, qui est mon ami M. Bayeux qui est là, qui a un magnifique terrasse, puis ils vont faire ça tout au long de la rue Buade. Fait que c'est certain qu'ils vont continuer l'interbloc, tout ça, vers chez nous. Puis ils ont été retardés avec les fouilles archéologiques qu'ils ont faites pour précéder la rue qui est là. Et tout d'un côté, ils ont été obligés de faire des fouilles pendant tout l'été passé. Là, cette année, ils refont la rue. Là, ils ont retravaillé Hydro-Québec, tout le côté électricité qui était vraiment important à travailler puis qui était désuet, il paraît, mais je connais pas ça. Ils ont tout refait ça aussi. Tu sais, il y a vraiment des travaux majeurs qui sont importants à faire pour le Vieux-Québec. Puis je le comprends, puis j'accepte ça, puis qu'il faut les faire à un moment donné, tu sais. Puis les retards qu'il y a par rapport à ça, ben moi-même, quand je fais des rénaux dans mes restaurants, souvent on a du retard. Fait qu'à un moment donné, il faut les accepter aussi, tu sais, ça fait partie de la game. C'est partie du... on ne peut pas rien faire. Hein.
Mm-hmm. Parfait, je comprends très bien. Puis Yannick, en terminant, pour tes autres restaurants avec les travaux du tramway, les autres travaux dans la ville, est-ce que l'accès se fait quand même bien?
Ben, c'est certain que la rue Saint-Louis, qui était des deux sens, ça, c'était quand même pas évident. Ça m'a fait mal les midis. C'est sûr que les gens d'affaires, tout ça, qui venaient dans le Vieux-Québec dîner, j'en avais moins. Mais mes soirées étaient excellentes, puis j'étais en augmentation encore dans la dernière semaine. Tu sais, c'était vraiment très bien. Le Vieux-Québec, vous savez que c'est un avantage, mais aussi un désavantage parfois. Là, ça en était un, mais en fait, on s'en est bien sorti. Sauf que là, la rue Saint-Louis est revenue dans les deux sens comme normal. Puis, tu sais, ça revient à la normale. Puis nos terrasses devraient arriver sur la rue Saint-Louis comme prévu pour le 24 juin à Saint-Jean, là, dans ce coin-là.
Donc, il n'y a pas d'inquiétude de ton côté pour la panoplie non. de restaurants?
Non, sauf Buade, qui va être un enjeu pour encore cet été, puis peut-être l'été prochain. Pas mal certain l'été prochain, mais c'est ça que ça va faire. On vit avec, puis on espère que les clients vont venir nous voir pareil. Puis on a un restaurant qui a 106 ans, Buade, qui est quand même pas rien, qui en a vécu d'autres tempêtes. Puis nous, ben, on est les nouveaux propriétaires pour cette décennie-là, puis peut-être 2 décennies. Puis on est dans une tempête qu'ils ont déjà vécu dans le passé. Il faut rester fort pour passer à travers.
Yannick Parent, merci beaucoup pour ta participation à l'émission On en jase, et on te souhaite une très belle période estivale.
Merci beaucoup, la gang. Merci.
Salut. Yannick Parent, président du groupe Solod, qui a plusieurs restaurants là, en ville, notamment le café Buade. Donc, ça semble quand même bien se passer de son côté. Quelques mouvements au niveau de l'achalandage, mais c'est pas le pire, là, justement.
Puis tu sais, c'est le fun d'entendre, parce que quand on parle de travaux puis de commerçants, c'est souvent des histoires négatives.
Oui.
On en a entendu beaucoup avec la COVID aussi, des commerçants qui ont appris en même temps que des médias, des travaux sur le tramway, mm-hmm. quand on veut avoir de la prévisibilité, à leur dire d'avance. Là, vraiment, d'entendre un commerçant dire « Hey, la ville est vraiment présente, elle nous accompagne », malgré le fait qu'on fait des travaux, ça se passe plutôt bien. Mais c'est fun parce qu'au nombre de travaux qu'on va avoir au cours des prochaines années, ben on n'a pas le choix que ça se passe bien pour certains commerçants si on veut s'en sortir.
Exactement. Puis tant mieux si la communication s'est améliorée entre la ville et les commerçants. C'est ce qu'on demande. C'est pour ça qu'on en parle justement dans les médias, pour faire changer les choses. On termine l'émission après la courte pause avec un petit bloc de nouvelles. Puis tu veux nous parler également de la conférence de presse de Gabriel Nadeau-Dubois, Mathias, auquel tu as assisté à distance. Il a rapporté des choses intéressantes, notamment... Il n'y a pas de tableau de bord pour comprendre le refus des projets?
Non, pas vraiment.
OK.
C'est un peu problématique, ça.
Oui, c'est ça. Fait que les critères sont « t'as-tu voté du bon bord? »
Ouais. Peut-être pas juste ça, mais avoir des conclusions de son rapport, ça adore d'en faire partie, par contre.
Excellent, on jase de ça. Dans quelques instants, l'émission d'En jase sur Boulevard 102. Émission d'En jase qui tire à sa fin, vous avez apprécié, mais c'est à chaque midi, de midi à 14h sur les ondes de Boulevard 102.1. Jeff Fortin, Mathias Turcotte, qui vous présente l'essentiel de l'actualité. Hey Mathias, avant de faire des manchettes, là, je veux absolument qu'on parle de la conférence de presse de Gabriel Nadeau-Dubois qu'il a fait ce matin concernant les écoles. Dans le fond, il s'est posé la question, lui, coudonc, les investissements en éducation, faut-tu t'aille voter du bon bord? On entend souvent ça, hein?
Ouais, oui.
Voter du bon côté, ça va rapporter. Et pas à ma grande surprise, mais à ma grande désolation, c'est le cas.
Ouais, ben il n'y avait jamais eu d'études, il n'y avait jamais eu vraiment de documentation sur ça au Québec, sur est-ce que... C'est une croyance populaire, puis c'est une impression qu'on a dans la population que les circonscriptions qui ont élu un député du parti qui est au pouvoir ont plus d'argent, ont plus de financement, que ce soit en infrastructure ou autre. Le rapport de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est sur les infrastructures en éducation précisément. Puis la tendance, la croyance populaire s'est en quelque sorte confirmée, là. On le voit depuis que la CAQ est au pouvoir, en moyenne par année, on a investi, puis là, c'est pour vous mettre en contexte puis avoir des chiffres proportionnels.
Ben oui,
proportionnels,
voici, c'est super intéressant.
Là. On a investi 1085 par élève pour les circonscriptions caquistes.
OK.
En moyenne par année. C'est 466 par élève pour celles péquistes et 235 pour celles solidaires. Donc, hey,
c'est un écart épouvantable.
C'est plus que double pour les péquistes, c'est plus que quadruple pour les, par rapport aux solidaires. Donc là, on parle vraiment proportionnellement, par élève, par circonscription. On pourrait se dire, c'est parce que les écoles dans les circonscriptions caquistes sont en moins bon état. Au contraire, c'est des écoles qui sont en meilleur état, proportionnellement parlant, par rapport aux autres circonscriptions aussi. Il n'y a rien qui explique le fait que la CAQ investit davantage dans ses circonscriptions en termes d'infrastructures scolaires, à part le fait qu'elle les priorise parce que
Ce qui m'a fait capoter, c'est qu'il a rapporté qu'il n'y a pas d'indicateur clair, objectif, qui permet de décider. On l'écoute.
Puis après avoir, comme je vous dis, mené des entretiens avec des hauts fonctionnaires puis avec des dirigeants de services scolaires, ce que tout le monde nous dit, c'est on comprend pas. On comprend pas c'est quoi les critères. On comprend pas pourquoi des fois nos projets passent, des fois ils sont refusés. C'est quoi la solution? Bien, je pense que la technologie aujourd'hui permettrait... par exemple, de bonifier le tableau de bord du PQI pour qu'on soit capable de savoir comment un projet a été évalué, s'il a été refusé, pourquoi, s'il a été accepté, pourquoi, si on a demandé des modifications, pour quel motif.
C'est complètement fou parce que, tu sais, pour bâtir des nouvelles écoles, tu as juste à regarder la démographie au Québec, tu as basé là-dessus, puis normalement, tu vas prendre des décisions. Pour prendre des décisions sur les rénovations, les agrandissements d'écoles, mais je vais plus parler rénovation dans ce cas-ci, ben, t'as juste à regarder ton plan d'infrastructure.
Ben oui.
Fait que ça devrait pas être selon le comté pour lequel
tu as
voté.
Je veux dire, avoir clairement des points clairs quand un projet est refusé, donner une rétroaction à la personne qui a vu son projet refusé, c'est à moindre des choses.
En plein ça. Il a parlé aussi du droit à l'éducation, on l'écoute.
Le droit à l'éducation, c'est un truc que tous les enfants ont, peu importe. Si on grandit dans une circonscription qui vote toujours pour l'opposition, est-ce que, donc, comme enfant, on mériterait d'être dans une école qui n'est jamais rénovée? Je pense que personne de raisonnable va penser ça.
Il a tellement raison.
Mais je pense que c'est dur à débattre.
Écoute, il a raison à 100%. Tous les enfants méritent d'avoir l'éducation, peu importe dans quel comté ils sont, et méritent d'avoir les installations propices à l'éducation, propices à bouger avec des nouveaux gymnases, propices à bouger avec des cours d'école rénovés. Peu importe que ce soit QS, le PQ, la CAQ ou le Parti conservateur. Là.
Un bon gouvernement devrait diriger pour le Québec au complet et non pas seulement pour ceux qui l'ont élu, justement.
En plein ça, très, 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 très content de voir le travail de Gabriel Nadeau-Dubois. On devrait l'avoir normalement demain matin, dans Marceau le matin.
Donc, 8h30.
8h30, c'est confirmé. Ouais. Merci, Mathias, d'avoir booké le tout. Alors, soyez à l'écoute. Mathias, on fera pas de manchette. Là. Il reste 30 secondes. Canadien Hurricane, ce soir, 20h sur les ondes de TVA Sports. Rappelle-moi ta prédiction.
5-2 Canadiens. On sort Anderson du match. C'est fini pour lui. On le change de gardien après cette game-là. Un massacre offensif du Canadien.
Moi,
ce
j'ai
soir.
Été plus conservateur avec un 2-1 Montréal parce que je pense que les Hurricanes vont fermer ça à triple, à quadruple, à centuple tour leur zone. Mais le Canadien va finir par l'emporter. Évidemment, on vous en parle demain dans l'émission On en jase. Et c'est sûr qu'on dresse le portrait de ce match-là dans Gravel dans le retour qui suit à l'instant même. Merci, mon chum Mathias. On se reparle demain.
Yes, à demain. Bonne journée, tout le monde.
Yes, à demain midi. Salut, guys.